Allez, vous êtes.
Maintenant, je veux saluer par le moins du relais radiophonique les églises dans tous les États. Le relais radiophonique est un excellent petit système qui nous permet d'atteindre toutes les églises dans l'État. Que nous avons reçu par notre frère Curry Green de Bowman, Texas. À travers tous les États-Unis, les églises écoutent ce soir le message par le moyen du relais radiophonique. Nous adressons nos salutations du haut en bas de la côte ouest, de Vancouver à Tunuina, Mexico, en passant par San Jose, Los Angeles, tous les groupes là-bas, nous vous saluons de Tresvayport, aussi jusqu'à Prescott, Arizona, au groupe qui attend le retour du Seigneur. Nous adressons nos salutations et à Tucson aussi, de Sierra Vista à New York, d'un bout à l'autre, à travers toute la nation. Le Seigneur vous bénisse, chacun d'entre vous. J'aimerais que vous soyez ici ce soir, dans ce magnifique vieil état de l'Oisini, qui semble être mon second chez moi. Vous savez, vous les gens de New York, vous savez que je ris un peu de vous avec votre manière de parler. Je suis comme à la maison ce soir. Chacun ici, vous savez, dit « Hello, cher frère, Branham, etc. » Maintenant, frère Branham explique et imite comment est-ce qu'il parle anglais. Cela fait que je me sens bien. Je suis comme chez moi ici. C'est pour moi du véritable anglais. J'étais au déjeuner des hommes d'affaires chrétiens ici. C'est pas que je manque du respect envers vous. Mais je crois que j'ai beaucoup de choses communes avec vous. J'étais au déjeuner des hommes d'affaires chrétiens ici il n'y a pas très longtemps. Et on m'a dit, nous lèverons maintenant et chanterons l'hymne national. Et je me suis levé et j'ai dit, pour mon vieil Kentucky si lointain. Eh bien pour moi c'était l'hymne national. C'est tout ce que je savais à ce propos. Ainsi, nous vous adressons nos salutations. Et maintenant, je crois qu'ils vont essayer de passer à la radio le déjeuner des hommes d'affaires chrétiens le samedi matin. Frère Green vous le dira. Il est au micro là-bas maintenant. Oui, aussi, il vous dira à quelle heure commencera le déjeuner et à quelle heure chaque soir vous pourrez l'écouter. Nous vous remercions chaleureusement de prier pour nous. Maintenant, ici à l'Assemblée locale et au tabernacle de Frère Trek, je vais juste vous demander une petite faveur ce soir, comme je vais donner ce soir mon message de remerciement, tel que à nos églises locales qui suivent le message à travers la nation. Je serai peut-être un peu long. Et puis, c'est encore possible que je touche le domaine de l'enseignement. Alors aussi, si vous n'êtes pas d'accord avec cela, comme je l'ai toujours dit à propos de manger une tarte aux cerises, quand je tombe sur un noyau, je ne jette pas toute la tarte. Je jette le noyau et je continue à manger la tarte. Aussi, si je mentionne quelque chose ce soir avec lequel vous n'êtes pas d'accord, faites comme avec la tarte aux cerises. Il y a une raison pour laquelle j'ai accepté d'être ici pour apporter mon message de remerciement au groupe à travers le pays. C'est parce que le frère Jack aussi toujours si librement ses portes, ou m'ouvre toujours si librement ses portes et dit « Prêche ce qui est sur ton cœur ». Aussi, je me sens réellement à la maison. Il y a peut-être ici dans l'assemblée locale de frère Jack des ministres de la parole ou des gens qui ne sont pas d'accord avec l'enseignement que j'apporte. D'habitude, j'ai la politesse de ne pas mentionner la doctrine au public d'un homme qui m'a invité à parler pour lui. Ainsi, après ce soir, je suppose que je prierai simplement pour les malades. Après ce soir, je suppose que je vais simplement prier pour les malades et ferai un service religieux normal. Mais j'ai pensé vous faire savoir à l'avance que si je dis quelque chose pour que vous ne pouvez agréer, eh bien, vous pouvez le mettre sur le compte de mon ignorance. Je suppose que je ne sais pas mieux dire à vous. Je suppose que je ne sais pas mieux dire et priez pour moi. Maintenant, tournons vers la parole, vers un chapitre ici auquel je désire me référer en plusieurs endroits ce soir parce que j'ai plusieurs passages de l'écriture et des petites notes écrites là sur un bloc-notes. Je me rappelle la première fois que je suis monté sur la plateforme au tabernacle de vie il y a 20 ans, je n'avais pas besoin de noter les passages de l'écriture et les différences et les références. J'étais alors 20 ans plus jeune. Mais maintenant, la seconde fois, 25 ans ont passé. C'est pourquoi je ne me rappelle pas aussi bien qu'autrefois. Je dois écrire mes passages de l'écriture sur le papier et parfois écrire d'autres choses auxquelles je désire me référer. Et maintenant que le Seigneur nous bénisse lorsque nous lisons la parole de Dieu et le livre des Romains, chapitre 7. Maintenant, j'aimerais vous enseigner comme je le fais pour une leçon d'école de dimanche. Je sais qu'il y a des gens debout et normalement au tabernacle à Jeffersonville. Nous voulons aussi tous vous saluer ce soir, vous de là-bas. Nous savons que vous faites aussi partie du relais radiophonique là-bas au tabernacle. Il semble que c'est comme un tabernacle ce soir, comme si vous étiez ici. Comme si vous étiez ici, oui. Comment est-ce que dans la salle, j'aurais bien voulu que vous puissiez voir, comment est-ce que dans la salle est archi pleine, les gens sont massés le long des murs. Je suppose que vous êtes aussi comme cela, vous tous dans cette partie du pays qui êtes venus pour le message. Maintenant, nous allons utiliser cela comme à l'école du dimanche. Et cela n'est pas dirigé contre quelque chose, quelqu'un ou n'importe quoi d'autre. Juste pour l'église, le corps de Christ, que nous essayons de conduire vers de plus profondes pensées et de plus grands objectifs, croyant que la venue du Seigneur Jésus est très proche. Nous le croyons, d'autant plus que c'est 20 ans plus près que lors de ma première venue à Fairport. Oh, tant de choses se sont passées depuis ce temps-là. Maintenant, nous attendons avec impatience la venue du Seigneur dans notre génération. Je n'attends pas un réveil dans notre génération. Dans notre génération, j'attends la venue du Seigneur. Maintenant, dans Romains 7. Oui, j'attends le retour du Seigneur. Maintenant, dans Romains 7, confiant que vous avez vos Bibles ouvertes partout dans le pays, nous voulons lire attentivement. Maintenant, ce message tiré de là, cela semble être à propos du mariage et du divorce. Mais cela ne l'est pas vraiment. Pour moi, c'est une prophétie. C'est une prophétie pour l'église des derniers temps. Lisons. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui entendent ce que c'est que la loi. Que la loi a autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Si la femme qui est soumise à un mari est liée à son mari par la loi tant qu'il vit. Car la femme qui est soumise à son mari est liée à son mari par la loi tant qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est déliée de la loi du mari. Ainsi donc, le mari étant vivant, elle sera appelée adultère si elle est à un autre homme. Mais si le mari meurt, elle est libre de la loi de sorte qu'elle n'est pas adultère en étant à un autre homme. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort à la loi par le corps du Christ pour être à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Car quand nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos membres pour porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous avons été déliés de la loi étant morts dans ce en quoi nous étions tenus, en sorte que nous servions en nouveauté d'esprit et non pas en vieillesse de l'être. Puis en vieillesse de l'être. Maintenant, prions. Oh, cher Dieu, nous avons juste lu ce que nous croyons être la parole sacrée de Dieu. Et c'est ce que nous croyons, que pas iota ou un trait de la lettre ne passera jusqu'à ce que tout soit accompli. Et nous croyons que notre Seigneur nous a dit dans Apocalypse chapitre 22, que quiconque ajoutera ou retranchera une parole du livre sera ôté du livre de vie. Sera ôté du livre de vie. Ça, c'est certain. Et nous voyons que par une mauvaise représentation de cette parole, que Satan a dénaturé auprès d'Ève, la faisant douter d'un mot, juste d'un mot, toute la race humaine a été jetée dans une chute, dans un chaos. Ensuite, seulement cette parole. Ensuite, nous voyons dans le milieu du livre la venue de notre Seigneur et Sauveur qui, dans cette citation, l'homme qui donne cette citation, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis cet avertissement sonne à l'aile dans le dernier livre de l'Apocalypse. Quiconque ajoutera ou retranchera une parole du livre sera ôté du livre de vie. Oh Dieu, sachant et voyant comment nous sommes fragiles, sachant que nous marchons sur les fils tenus de cette vie mortelle, sans savoir quand
Nous serons appelés pour répondre au très, pour rendre compte au très haut. Laisse-nous, ô Seigneur, mettre de côté toutes choses dans nos cœurs, toutes choses dans notre esprit. Et regardez ce soir droit à ta parole. Droit à ta parole. Et toi, viens pour l'interpréter avec l'oracle vivant. Accorde-nous, puisse ton esprit tomber sur nous et oindre les paroles de nos cœurs. Oindre les paroles dans nos cœurs. Que nous puissions partir d'ici ce soir étant des meilleures personnes que nous le sommes maintenant. Que nous puissions avoir un meilleur aperçu de Jésus-Christ. Accorde-le-nous, Seigneur. Afin que nous puissions avoir une meilleure compréhension du jour dans lequel nous vivons et de la manière que Dieu prépare son peuple dans cette terre. Ce grand et crucial temps des ténèbres dans lequel nous vivons maintenant. Oh, comme Seigneur, c'est merveilleux. Dieu, oins-nous, pas seulement celui qui parle, mais aussi celui qui écoute, ceux qui écoutent. Et ensemble, fais trembler nos cœurs à ta parole. Car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Accorde-nous ces choses, Père, car nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais mettre un titre à ces quelques remarques que je vais faire ici et aux quelques écritures que je suivrai avec attention, si le Seigneur le veut, pour le message de remerciement, l'union invisible de l'épouse et de l'époux. L'union invisible de l'épouse de Christ. Cela ne sonne pas comme un message de reconnaissance, de remerciement. Nous sommes reconnaissants pour chaque écriture. Je suis reconnaissant à Dieu de vivre dans ce temps des dernières scènes de l'histoire de ce monde. Si Dieu avait mis devant moi tout le programme et dit, je veux que tu prêches. Maintenant, dans quel âge voudrais-tu aller sur la terre pour prêcher? J'aurais choisi cet âge. Car je pense que celui-ci est l'âge d'or. J'aurais certainement aimé avoir été ici durant sa visite sur terre. Mais je pense quand même que ce temps maintenant est un temps plus grand. Parce que c'est un temps où il vient pour préparer, pour prendre les personnes qu'il a rachetées. Ce temps nous rapproche de la résurrection où tous les rachetés s'avanceront dans la résurrection. Quelle glorieuse opportunité nous avons de parler à un peuple mourant. Glorieux temps. Nous sommes enthousiasmés à ce propos et nous savons que l'histoire est en train de se terminer. L'histoire du monde sera bientôt terminée. Alors nous allons entrer dans un nouveau jour, dans le grand millénium. En tant que croyant, je crois à un millénium, un règne de 1000 ans sur terre avec Christ. Je crois au retour physique du Seigneur Jésus pour prendre un peuple physique glorifié par son sang qui purifie. Qui purifie. Paul donne ici une illustration dans notre écriture au sujet de la loi et de la grâce. De la même façon que mariage et divorce. Ce passage est très rarement prêché parce qu'il a plus ou moins de rapport avec le mariage et le divorce. Mais il a aussi une plus grande portée que mariage et divorce. Comme Paul pouvait dire dans Éphésiens 5, cela concerne Christ. C'est un grand mystère, cela concerne Christ et l'Église. Ici, il essaie ici d'y mettre de l'ordre. Donc, tel qu'il essaie ici d'y mettre de l'ordre, de l'éclaircir en disant que de même qu'en tant qu'Église, nous ne pouvons plus jamais être mariés au monde et à Christ en même temps. Être légal et à Christ en même temps, être légal et dans la légitimité à ce propos. Au même titre qu'une femme ne peut pas vivre avec un mari alors que son premier mari vit encore. J'ai mes propres pensées à ce sujet et je crois que ce que la Bible dit est la vérité. Mais je crois aussi que cela révèle un des grands mystères de la prophétie. J'espère que le Seigneur nous aidera ce soir parce que nous transmettrons ici à nos gens qui attendent au travers de la nation. C'est très important. Je l'ai lu alors que j'étais en train d'écrire les notes à ce sujet. Je ne pouvais pas me rappeler exactement dans quel livre c'était, mais je suis sûr que c'est juste. C'est l'un des livres que je lisais au sujet de M. Modi, Dries Modi, à Chicago. Nous avons aussi ce soir une grande église qui écoute à Chicago. Ce monsieur Modi, après avoir lu Romains 7, courut dans la rue et au premier homme qu'il a rencontré, il lui dit, connaissez-vous la grâce? Car grâce en anglais est aussi le prénom d'une jeune fille. Alors le monsieur lui dit, mais quelle grâce qui? Grâce qui? Monsieur Modi dit, la grâce de Dieu. Il était tout excité d'avoir vu que la grâce nous avait divorcés, séparés de la loi, et quel rôle la grâce avait joué. Oh ça, j'aimerais le faire chaque soir, me représenter le rôle de la grâce. J'ai toujours dit aux gens, quand je franchirai la ligne de l'autre côté, j'aimerais me tenir debout et chanter étonnante grâce qui a sauvé une épave comme moi. Quel don, quel doux son. Grâce précieuse, grâce à connaître davantage, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Pas par ce que nous pouvons faire, car quoi que nous fassions, cela ne nous est pas compté. C'est la grâce qui nous sauve. Par grâce, vous êtes sauvés, au travers de la foi. Puis je ajoutais quelque chose au sujet de cette femme, grâce. Puis je la plaçais dans la Bible aussi, comme elle est appelée la dame élue. Cette mademoiselle grâce dont je vais parler. Vous savez, la Bible déclare la dame élue. Si vous regardez, élue vient de la parole. Dame élue, une dame parmi toutes les autres dames était élue comme la Vierge devant donner naissance au corps de Dieu sur la terre. Elle était une femme élue. Dieu choisit Marie. Et Dieu a aussi choisi une dame élue qui est son épouse. Elle est élue. J'espère que nous sommes membres de ce corps au travers de la nation. Et pour que sa parole soit accomplie par elle. J'espère que vous savez de quoi nous parlons. L'illustration que je donne nous montre la relation de l'épouse à Christ et le chemin pour être conduit à lui, c'est-à-dire la relation des élus avec Christ. Car ce sont les élus qui sont maintenant conduits à Christ. Lui, la parole, devenue chair, tel que Rebecca a été choisie et préparée pour être conduite à Isaac. Car comme est-ce que deux personnes vivront ensemble s'ils ne sont pas semblables? C'est ainsi que les élus sont sortis de l'état de mort par les offenses et par le péché dans lesquels ils marchaient autrefois selon le train de ce monde. L'esprit de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de leur façon de vivre autrefois selon les convoitises de leur chair, accomplissant les volontés de la chair et de leur pensée. Ici, nous parlons de l'épouse de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et du chemin pour qu'elle arrive à la statue parfaite de son époux, selon Éphésiens 4, verset 13, étant transformée en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, selon 2 Corinthiens 3, verset 18, s'étant dépouillée du vieil homme, de la vieille nature et de ses œuvres, selon Colossiens 3, verset 9, ayant fait mourir les réactions et les actions du corps par l'Esprit de Dieu, selon Romains 8, verset 13, pour être renouvelés dans l'esprit de leur intelligence et revêtus l'homme nouveau à qui nous appartenons dorénavant, selon Galates 5, verset 24, créés en nous, selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, comme c'est écrit dans Éphésiens 4, verset 24, car seulement si nous sommes à Christ, nous sommes la descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse, selon Galates 3, verset 29. Et Paul voulait fiancer les élus à un seul époux pour être présenté à Christ comme une vierge pure, selon 2 Corinthiens 11, verset 2, en qui, selon Galates 4, verset 19, Christ, la parole, fut formé. Ça, c'est très important. Alors, nous sommes en train de parler de comment est-ce que l'épouse, maintenant, est préparée pour être conduite à Christ, la parole devenue chair. L'illustration que je donne ici montre parle d'une femme. Et en tant que femme, c'est toujours un type de l'Église. Et ensuite, bien sûr, de l'épouse du Christ. Ici, nous parlons de l'épouse de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, si vous êtes attentif et regardez l'état, la condition et la conduite des femmes dans le monde d'aujourd'hui, alors vous constaterez que l'Église mondaine fait la même chose. Étant dans l'esprit du monde, se conformant au siècle présent selon le train de ce monde. Maintenant, certaines de ces remarques peuvent paraître étranges à quelques-uns d'entre vous, mais elles sont complètement complémentaires au message que j'ai reçu du Seigneur et que j'essaie d'apporter aux gens. Vous voyez, vous regardez chaque chose dans le naturel, comme cela se passe dans la nature, et vous l'observez. Cela est aussi vrai avec le spirituel. Maintenant, si vous regardez la conduite des femmes dans le monde d'autres juifs aujourd'hui, observez la conduite de l'église Chanel d'aujourd'hui. Observez simplement, naturellement. Maintenant, il y a aussi la conduite de l'épouse spirituelle, l'église. Observez cela aussi, parce que la soi-disant naturelle revendique être l'épouse. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi le dire à nouveau à l'assemblée locale ici. Ne vous sentez pas mal maintenant. Je m'adresse à tous ceux qui sont à travers de la nation. Ce que je pense de la dame élue. Aussi, s'il y a des ministres de la parole ici qui ne sont pas d'accord, gardez simplement votre calme pour un petit moment. Remarquez ce caractère. Quand vous voyez des femmes entrer dans une colère noire, se mettre en colère et faire juste ce qu'elles veulent faire, et manifester des natures d'amosité, etc. Regardez, l'église est en train de faire la même chose. Observez. Mais regardez l'épouse spirituelle, quand elle commence à avoir un réveil, quand elle commence à revenir à la et à s'aligner, à se mettre en accord elle-même avec la parole de Dieu. Observez alors à nouveau, vous verrez comment un message sortira des écritures de façon majestueuse à ce moment pour saisir cette épouse, saisir cette femme, l'élu. C'est comme avec le monde. Satan le trompeur induisit en erreur la première épouse pour la faire pécher contre Dieu en la faisant ne pas croire à sa parole. Aujourd'hui, quand nous voyons l'église naturelle dans son évangile intellectuel, s'éloignant de plus en plus loin de la parole dans l'évangile social, nous trouvons que les femmes du monde dans les rues, membres de telle église, sont elles-mêmes emportées. Elles sont elles-mêmes emportées par la même atmosphère. Vous ne pouvez rien leur dire. Vous ne pouvez rien leur dire. Elles ont perdu tout sens commun de la décence. Les gens l'ont perdu. C'est la manière dont l'Église l'a perdu. Vous pouvez la voir directement aller au Conseil économique, aussi sûr que les choses de ce monde droit à Rome et de toutes ses forces, vous voyez, parce que cette prophétie est, c'est là qu'elle se trouve, parce que c'est prophétisé et c'est là qu'elle se trouve, c'est son comportement. Mais alors, regardez de nouveau à l'église spirituelle, comment se comporte ce groupe de gens appelés hors de les élus de chaque réveil, avec Martin Luther, lors de la réformation. Cela s'est passé de la même manière au temps de John Wesley. Cela s'est passé de la même manière quand la Pentecôte a premièrement commencé. Cela s'est passé de la même manière. Ils ont ramené leurs femmes en arrière, en ligne avec la parole, à se conformer avec les paroles de la Bible, comme c'est écrit dans 1 Timothée 2, verset 9 à 10, et dans 1 Pierre 3, verset 2 à 6. Ça, c'est très important. Mais ils sont ensuite allés à la dérive. Et à ce moment-là, elle est retournée droit en arrière dans le chaos. Mais alors, au temps où les gens sont prêts à s'aligner, il y a un message qui sort, à se mettre en accord avec la parole, il y a un message qui sort. Et ils se mettent en accord avec la parole, avec ce message. Luther était le messager du jour de la justification. Quelques-uns dans l'église se sont alignés droit avec cela. Le reste a continué. Wesley est venu avec la sanctification. L'église s'est alignée droit avec cela. La Pentecôte est venue avec la restauration des dons. L'église s'est alignée, s'est mise en conformité avec cela, tout droit avec cela. L'élu de ce jour, c'est lui qui le fait. Et alors, elle a fané ensuite, plus tard. Elle est retournée droit en arrière dans le dénominationnel, dehors avec le reste des hommes, des autres. Maintenant, vous remarquerez que quand les gens commencent à essayer de se conformer avec la parole, voici que vient droit auprès d'un message, tout frais de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Alors, et c'est par le message qu'ils sont apportés en conformité avec Dieu et sa parole. Chaque fois, c'est seulement en Dieu que nous atteignons cela. Nous avons des familles. Chaque famille ici en est habituée à cela. Parfois, cela va bien pour vous pendant des années. Soudainement, un coup du sort vous frappe. Nous disons cela souvent ici dans le sud. Quand il pleut, cela verse. Et tout va de travers. vous pouvez au travers de la nuit, vous passez au travers de la nuit. Ensuite, il y a la pointe du jour. Ensuite, la nuit. Chaque chose avance en continuité. Le prophète Paul ici dit qu'une femme ne peut pas se remarier avant que son premier mari ne soit mort. Elle ne peut pas se remarier aussi longtemps que son mari est en vie. Dans absolument aucune circonstance, elle doit rester seule aussi longtemps que son mari est en vie. Et si elle devait commettre un tel péché, elle sera appelée adultère. Je parle ici du domaine naturel pour relever le domaine spirituel. Car dans Jacques 4, verset 4, les croyants pour lesquels, selon Romains 6, verset 14, le monde n'est pas encore crucifié. Et eux au monde sont appelés adultères en voulant appartenir à Christ. Ça, c'est vrai. Tel que la grâce et la loi sont contraires l'un à l'autre, et tel que la loi, c'est comme une femme qui vit en même temps avec deux maris. La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps que l'homme cherche à ce que la loi lui procure la vie, comme c'est écrit dans Galates 3, verset 20 et 21, et Romains 9, verset 30 et 31. Quoi qu'elle soit spirituelle, la loi, Romains 7, verset 14, mais le vieil homme charnel doit mourir pour que, selon Romains 8, verset 4 et Hébreux 7, verset 16, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons selon l'esprit par la foi. C'est pour cette raison que Romains 4 dit que c'est par la résurrection que nous avons été justifiés. Et selon 1 Pierre 1, régénérés pour une espérance vivante, mais pas par le fondement des œuvres de la loi, mais par la foi. Je parle maintenant de la naturelle pour typifier la spirituelle. Si cette femme voulait commettre un tel péché, elle serait alors qualifiée d'adultère. Si elle a deux maris vivants au même moment, elle a donc été déchue de ses droits en faisant cela aux yeux de Dieu et du ciel. Certainement, elle a été. Elle est une exclue de l'ordre de Dieu, en accord avec les Écritures que j'ai lues et citées. Il en est ainsi de l'Église. Quand elle essaie de mélanger les credos et les dénominations avec la parole de Dieu, elle ne peut pas être mariée à une dénomination et être l'épouse de Christ en même temps. Elle doit être morte pour l'une ou pour l'autre. La loi dit cela ici. Il y a beaucoup de lois dans la parole de Dieu. Et c'est sa loi. Paul parle de la même chose ici. Elle ne peut pas être mariée avec l'Église, à une Église qui a un credo du monde et être l'épouse de Christ. Parce que l'une est contraire à l'autre. Maintenant, rappelez-vous de ceci. Eh bien, vous croyez ceci. Vous dites, vous croyez ceci, mais nous croyons pas cela. Si vous êtes marié à Christ, Christ est la parole de Dieu. Dans Jean, au premier chapitre, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole devient chair et habitait au milieu de nous. Christ était la parole vivante. Il a toujours été la parole, il est toujours la parole, et il sera toujours la parole. Il était seulement la manifestation des attributs de Dieu. Car il était le fils de Dieu. Et n'importe quel fils a les attributs de son père. Et tout comme vous étiez dans les gènes de votre père et dans son corps quand il était un jeune homme. Vous étiez en lui. Mais il ne pouvait pas avoir communion avec vous parce qu'il ne vous connaissait pas. Mais au travers du sein de votre mère, vous êtes né sur terre et devenu à l'image de votre père. Alors il pouvait avoir communion avec vous et ainsi vous étiez des fils et des filles de Dieu. Ainsi c'est la même chose. Vous étiez des fils et des filles de Dieu avant même qu'il y ait une lune et une étoile et une molécule. Vous étiez des fils et des filles de Dieu. Parce que vous êtes seulement les manifestations physiques des attributs qui étaient en Dieu au commencement. Parce qu'il y a seulement une forme de vie éternelle. Et cela existait avant nous, avant vous. Vous ne savez rien à ce sujet. Pas plus que vous le saviez lorsque vous étiez dans votre père terrestre. Mais vous êtes manifesté en son image. À l'image de Dieu, vous êtes fait et vous avez été manifesté pour la gloire et la communion avec Dieu. Et c'est pourquoi. Et c'est la même chose aussi, spirituellement. Et c'est pourquoi, aussi sûr que vos gènes devaient être dans votre père avant votre naissance naturelle, vos gènes spirituels devaient être en Dieu. Parce que vous êtes une expression des attributs de ses pensées avant la fondation du monde. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est vrai. Maintenant, nous remarquons que cette vie était en vous. La vie de Dieu était en vous depuis la fondation du monde. Vous ne pouvez pas mélanger le credo, les enseignements des dénominations avec la parole, parce qu'ils sont trop contraires l'un à l'autre. Cela est exactement ce que Satan a essayé de faire à Ève, avec ses conceptions intellectuelles. Il a admis que Dieu l'avait dit, mais il a dit seulement, sûrement vous ne mourrez pas. Vous voyez, ils ont cru cela, et c'est cela que les enseignements ont fait ce soir. La dénomination a séparé les gens de la parole de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, lorsqu'il est venu, vos traditions, vous avez rendu le commandement de Dieu sans effet pour les gens, à cause de vos traditions. À cause de vos traditions. Et à travers nos doctrines, nous sommes éloignés de la communion du Saint-Esprit qui oint la parole de Dieu. Pour notre génération, nous avons séparé les gens par les dénominations, pour qu'il n'ait pas une chance de voir cela. Maintenant, Dieu dans cette génération révèle une nouvelle partie de son livre. Tout cela va ensemble de la même manière que mon corps a été assemblé. Il m'a été dit que cela commençait par la colonne vertébrale, mais que ce n'était pas toute la colonne vertébrale. Cela allait vers les côtes et les poumons, vers les mains, les bras et les pieds, et ainsi de suite, pour devenir la personne que je suis, la personne que je suis. Et c'est ainsi que Dieu fut manifesté au commencement. Finalement, il apparut comme Jéhovah, Dieu le Père. Ensuite, il apparut comme Dieu le Fils, en Jésus-Christ. Maintenant, il apparaît comme Dieu le Saint-Esprit. Tout le temps, le même Dieu, trois manifestations du même Dieu, de la même personne. Maintenant, nous trouvons dans cela que Dieu, dans chaque génération, depuis le commencement, a déterminé une partie de sa parole qu'il a exécutée. Exactement. Comme s'opérait l'évolution, exactement comme la première chose que Dieu créa, fut probablement, disons qu'il a créé la vie botanique, ensuite la vie animale, ensuite il a créé la vie humaine. Une sorte d'évolution, s'élevant toujours plus haut. Il en fut de même pour l'Église en Dieu. La justification sous Luther, c'était tirer dehors son épouse. Maintenant, il crée son épouse. Il crée son épouse. La justification vient sous Luther. La sanctification sous Wesley, et ainsi de suite. Vous voyez, l'évolution de l'esprit étant distribuée de plus en plus, car le corps de Christ se construit venant vers la tête, laquelle est Christ. Maintenant, elle, en tant que femme, si elle est mariée à Christ, la parole, elle ne peut pas être mariée à une église dénominationnelle en même temps, car elle est liée à la parole. Elle ne peut pas vivre avec deux maris en même temps. Ils sont contraires l'un à l'autre. L'une est envoyée de Dieu et l'autre est fabriquée par l'homme. Ainsi, elles sont contraires. Il a dit que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Comme c'est écrit dans Romains 3, verset 4, second. Dieu dit cela, tout autant contraire l'un à l'autre, que la loi et l'état de la grâce, comme Paul le dit ici. L'une doit être morte afin d'appartenir à l'autre. Ce n'est pas possible autrement. Afin d'avoir l'autre et d'appartenir à l'autre. Et si elle essaie de les mélanger, elle sera appelée une adultère. Oh, pensez à cela. Oh, vous New York, en Arizona, à travers la nation, pensez-y. Dieu a dit que si elle essayait d'être mariée aux deux en même temps, elle devrait être appelée adultère. Quelle femme adultère pourrait entrer au ciel? Est-ce que Dieu mariera une femme adultère? Certainement pas. Il nous a demandé de ne pas le faire. Elle devrait être appelée adultère. Ensuite, ses enfants. Si elle est une adultère, ses enfants sont illégitimes. 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 Envers quoi? Pas envers l'Église, mais envers la parole. Elle est légitime. Elle est illégitime. Quelle image? Parce qu'elle est mélangée avec le monde. Elle essaie d'avoir le fils, parce que celui qui a le fils, il a la vie. Mais le vieil homme doit mourir pour que la vie soit manifestée. On ne peut pas avoir les deux, le vieil homme et le fils en même temps. Quelle image de l'Apocalypse 3 ici, des derniers jours de l'église de la Odyssée. Quel groupe illégitime, quelle pagaille dénominationnelle continuée. Ils sont tièdes, ils s'appellent eux-mêmes chrétiens, et nient la parole de Dieu, ayant une forme de piété, mais niant sa puissance. Comme le prophète a dit qu'il le serait. Le mariage est l'institution la plus ancienne du monde. Le mariage a été accompli en premier et instituée dans le jardin d'Éden. Une femme a reçu certaines caractéristiques qu'elle ne doit pas souiller. Une femme est dépositaire de cela. Il n'y a pas une créature semblable à la femme sur terre. Il n'y a pas de chienne ou une femelle d'aucune sorte qui ait reçu les caractéristiques confiées à la femme. La femme n'existait même pas au début de la création. Parce que Dieu savait qu'elle chuterait. Aucune autre femme ne pouvait commettre adultère. Elle est la seule à pouvoir commettre adultère. Si elle avait été faite comme création originale, cela n'aurait pas correspondu à la grande sagesse de Dieu. Vous voyez, elle a été faite dérivée de l'homme, mais parce qu'elle a été tirée de son côté. Elle a aussi reçu un dépôt sacré de Dieu pour la rédemption. Elle a des caractéristiques qu'elle ne doit pas souiller. Si elle gâte ses particularités, elle est souillée pour la vie. Aucune importance. Combien de fois elle est pardonnée, elle ne peut être justifiée. Je touche à cela dans un petit instant. Oui, j'ai une écriture à ce sujet dans quelques minutes. Elle peut être pardonnée pour sa souillure, mais elle ne peut pas être justifiée dans cette vie. Cela reste toujours avec elle. Remarquez maintenant, elle a reçu ceci. Elle peut être pardonnée, mais pas justifiée. Son corps, lui, est donné comme une responsabilité sacrée de Dieu. Aucune chienne, une femelle, oiseau, aucun autre animal, aucune autre créature de cette sorte. Non, elle est la seule, l'unique, la raison pour laquelle cela est tellement sacré, c'est parce qu'elle est faite pour amener la vie sur la terre. Son corps est le berceau de la vie. C'est la raison pour laquelle il a reçu cette seconde charge. Maintenant, c'est ici que beaucoup d'entre vous théologiens pouvaient ne pas être d'accord. C'est ce qui a souillé toute la race humaine. C'est cet adultère au commencement. Ce berceau a été gâté. Elle a donné naissance à ses jumeaux, Caïn et Abel, un seul acte. Deux enfants. Cherchez dans les Écritures. Oui, remarquez. Maintenant, nous trouvons que son corps porte la matrice. Et c'est pourquoi c'est une responsabilité sacrée à ne pas souiller. Maintenant, je vous parle, apportant ceci comme une illustration pour vous montrer là où l'Église se tient. Je ne parle pas de vous, femmes, ou de vous, hommes, quoi que vous soyez. Cela est entre vous et Dieu. Mais je parle de l'Église et de Christ. Maintenant, ceci lui est donné pour mettre au monde la vie que seul Dieu lui-même peut donner. Son mari peut être le porteur du germe, mais Dieu doit produire la vie. C'est vrai. Toute vie vient de Dieu. N'importe quelle vie vient de Dieu. Mais bien qu'elle soit pervertie ou bien tordue, même s'il y a une déformation, c'est cela qui fait qu'elle est pécheresse. La vie vient de Dieu. Il est l'auteur de la vie. En premier, je veux nommer ici trois choses dont elle ne doit pas s'éloigner. Gardez l'Église en mémoire pendant que je parle de la femme naturelle. Comme Paul le fait ici dans le chapitre 7 des Romains. Elle a une responsabilité sacrée de vertu que le Seigneur lui a confiée. Une certaine vertu. Rien d'autre ne détient cela, si ce n'est une femme. C'est vrai. Cela lui a été confié par Dieu. Elle ne doit pas suivre cette vertu. Si elle fait quelque chose de faux, elle doit le confesser à son mari avant qu'il la prenne et le faire correctement. Exactement. Comme l'Église, qui était mariée à la loi, devait aussi venir devant Christ avant le second mariage. Elle doit confesser cela si elle ne le fait pas et qu'elle vive avec son mari pendant 10 ans. Et qu'elle le confesse alors, il a le droit de la renvoyer et de marier une autre femme. Cela, c'est l'Écriture. La fornication est une manière de vivre impure. Joseph ne craint pas de la prendre avec toi, marie ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Il pensait à la répudier secrètement pour, vous voyez, après qu'il se fût fiancé à elle. En ce qui concerne Dieu, lorsque vous êtes fiancé, vous êtes marié. Remarquez, maintenant, elle a une responsabilité sacrée de vertu qui lui a été confiée par le Seigneur. Dieu lui a donné cette vertu, exactement comme ce fut le cas dans le jardin d'Éden. Elle peut dire oui ou non, elle a une responsabilité sacrée, une nature féminine transmise par Dieu, qu'elle ne doit pas briser. La nature féminine dont je parle ici, c'est sa conduite, son caractère envers l'homme. Ne laissez pas chaque homme comme ça vous embrasser. Regardez sur ces écrans et à la télévision, regardez ces stars s'embrasser, s'étreindre. tourner autour de ces femmes, etc. Une femme qui fait cela a un mauvais caractère. À part cela, elle peut être même vertueuse. Mais voyez dans son cœur, quand un homme embrasse une femme, il a en fait potentiellement commis déjà adultère. Car dans les lèvres se trouvent les glandes du sexe. Des glandes sexuelles se trouvent dans les lèvres de la femme et de l'homme. Il peut l'embrasser sur la main. Cela ne mélangerait pas les glandes du sexe. Car ces glandes sont dans les lèvres. Et voyez tout ce non-sens. Hollywood, aujourd'hui, avec ses sensibleries et ses histoires d'amour autour des femmes et ainsi de suite. Les petites filles regardent à tout cela, elles regardent à la télévision, elles regardent tous ces magazines. Ce n'est pas étonnant si notre morale est pourrie, décadente et sale. Parce que cela est placé devant les enfants, par la télévision, etc. Cela est vrai. Cela doit être ainsi dans les derniers jours, n'est-ce pas? Maintenant, regardez l'Église en mémoire. Elle embrasse, tourne autour et se mélange avec tout, sauf avec la parole. Laissez le diable, l'éducation, les recherches scientifiques et ainsi de suite, car l'éducation scientifique et toutes ces choses sont absolument contraires à Dieu. Tout le système de civilisation que nous avons maintenant est absolument antichrist. Le système éducationnel est antichrist. La civilisation est antichrist. C'est contre Dieu. Ils disent, oh, tu parles contre la civilisation. Dieu aura un de ces jours une civilisation où il n'y aura aucune mort qui lui sera associée. Cette civilisation moderne vient de Satan. Je vous le prouverai de par la Bible ce soir, si le Seigneur le veut. Toutes ces choses sont de Satan. Notre nouvelle civilisation n'aura rien de cela en elle. Elle a cette nature féminine sacrée. Pas étonnant que les hommes agissent de cette manière à l'encontre des femmes. C'est parce que les femmes agissent à l'égard des hommes comme elles le font. Elles se caractérisent. Elles-mêmes là dehors avec une paire de shorts, des vêtements moulés, des jupes serrées, des habits d'hommes et d'autres choses. Se tourtillant dans la rue, elles ne peuvent même pas marcher tellement que les habits sont serrés. En se faisant remarquer par leurs habits. Ce qu'elle dit n'a aucune importance. Elle ne ressemble pas à une chrétienne. Elle peut être aussi vertueuse envers son mari que possible. Mais aux yeux de Dieu, elle est une adultère. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis un adultère avec elle dans son cœur. Elle se présente elle-même pour être cela. C'est exactement ce que l'Église a fait avec le monde. Remarquez, elle commet cela à l'encontre de sa responsabilité sacrée, de sa nature féminine. Ensuite, de sa maternité sacrée et de l'honneur de son mari. Regardez seulement aujourd'hui, dans certaines villes, dans beaucoup de villes, ils ont même des grandes parties qu'ils appellent mondanité. N'est-ce pas? Des membres d'église aussi le font. Ils se saoulent d'abord, mettent un chapeau sur le sol et ils jettent leurs clés. Chaque femme va et prend dans le chapeau la clé de l'homme avec qui elle va passer le week-end. J'ai tellement de choses à dire au sujet de toutes ces parties. Le Seigneur voulant, je n'ai pas le temps d'en parler. Quelle saleté! Et l'Église est tout aussi mauvaise. Cela est vrai. Commettant l'adultère avec n'importe quoi. L'Église embrasse toutes sortes de choses. Et se laisse embrasser aussi par toutes sortes de choses. Elle se laisse embrasser par le monde, par la mode. Elle n'a rien à faire avec cela. L'Église n'a rien à voir avec cela. Elle devrait rester avec la parole. Bâtir, c'est vrai, c'est bien. Faire des hôpitaux, c'est bien. C'est bien. Toutes ces choses aussi sont bien. Mais les programmes éducationnels, c'est bien. Nous devons vivre ici. Nous devons lire, écrire et notre système économique, etc. De la même manière, nous n'étions pas supposés porter des habits au commencement. Je prêcherai là-dessus plus tard cette semaine, Dieu voulant. Mais nous devons porter des habits maintenant. Nous devons maintenant nous couvrir parce que Dieu nous a donné des habits. Mais au commencement, nous n'en avions pas besoin. Nous étions voilés. Maintenant, l'Église est voilée par ses péchés. Elle ne sait même pas qu'elle pêche. Maintenant, elle est voilée par le diable. Autrefois, elle était voilée par Dieu. C'est cela qui fait la différence. Maintenant, nous trouvons qu'il lui a été donné cette responsabilité sacrée de la nature féminine, qu'elle ne doit pas briser. Ça, c'est très important. Agir avant son caractère, agir, avoir son caractère, élever ses enfants, être honorable pour son mari. De nos jours, elle ne porte presque aucune attention à cela. Vous devriez vous asseoir parfois dans mon bureau et voir des hommes amenant leurs femmes qui essaient de se mettre en ordre avec Dieu.
Elles confessent tout à l'homme avec laquelle elles vivent toutes choses depuis qu'ils sont mariés. Oh, vous dites, cela ce sont des non-croyants. Non, ce sont des pentecôtistes, des croyants. Les autres ne viendront pas. Les incroyants ne viendront même pas. Aussi, je parle de comment on peut s'en éloigner. Quand l'Église se mélange avec le monde et avec toutes ces modes et choses que nous n'avons plus rien de commun avec la Pentecôte originale de l'Église primitive. Dans Actes des chapitre 2, pas davantage que le jour avec la nuit, nous avons dérivé quelque part dans le sombre chaos et nous sommes perdus. Quelle charge sacrée, quelle responsabilité pour une femme maintenant. Voyez comment elle est un type de l'Église. Est-ce que vous comprenez cela? Qui a la même responsabilité? Elle a la même responsabilité que l'Église. Comme une femme qui a une responsabilité sacrée envers sa maternité, ses vertus, son mari. C'est-à-dire que l'Église a une responsabilité sacrée envers la prière, la parole et Christ, exactement la même que celle de la femme. Et comme une femme qui sort, qui se laisse aller avec un autre homme, l'Église va de même dans ses programmes institutionnels et dans ses programmes de construction d'école et ainsi de suite. Je n'ai rien contre eux. C'est bien, ils servent leur but, mais ils ne sont pas dans la parole. Jésus n'a jamais dit, va et construire des églises, des écoles. Il a dit, prêcher la parole. C'est ce qu'ils ont négligé. Faire des instructions, des hôpitaux et ainsi de suite. Ces choses sont bien, mais ce n'est pas le devoir de l'église. Son devoir est de prêcher l'évangile. Mais nous avons fait toutes sortes d'autres choses, sauf cela. Et nous avons dérivé exactement, comme Satan. Mélangeant un peu d'évangile avec quelque chose d'autre et encore quelque chose d'autre, jusqu'à ce qu'ils obtiennent rien d'autre qu'une conglomération de corruption. Même le monde entier veut suivre la tendance du monde. En lisant le Richard ici, il n'y a pas si longtemps, nous avons vu que des jeunes filles entrent dans la ménopause, tout comme les hommes arrivent au tournant de leur vie entre 20 et 25 ans. Ils entrent dans l'âge mûr. Corruption, pourquoi? Parce que la recherche scientifique sur la nourriture et d'eau et autres a détruit les choses naturelles destinées à nourrir notre corps. Nous ne sommes rien d'autre qu'un tas de gens corrompus, mourants. Maintenant, c'est aussi ce qu'est l'Église. Elle est dans la même condition, la même situation. Elle en est le type. Elle a les mêmes précieuses vertus données par l'Esprit pour préserver l'Esprit et la parole, pour ne jamais commettre un adultère avec quoi que ce soit du monde ou autre. Pour rester une vierge par rapport à la parole, comme une femme doit rester vertueuse par rapport à son mari. C'est une responsabilité sacrée. L'Église a reçu cette charge pour honorer la parole qu'elle a reçue du Seigneur, au-dessus de tout credo fabriqué par l'homme et toute sagesse de dénomination. Ils disent bien, mon Église dit ceci, mon Église enseigne cela. Cela m'est égal ce que croit votre Église. Si c'est contraire à la parole de Dieu, éloignez-vous d'elle. La Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Marc 16 dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Si l'Église prêche différemment de cela, mourrez à cela. Naissez de nouveau dans la parole de Dieu. Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute la création. C'est alors donc aussi loin que cela. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru, tout le monde et toute créature qui aura cru. Vous voyez comment nous sommes éloignés de cela. Sûrement, mais l'Église est responsable de cela. Mais maintenant, regardez les choses vertueuses qu'Hollywood a pris à nos femmes. Les choses vertueuses. J'étais assis ici regardant une chère vieille femme, sœur Schroeder. Beaucoup de femmes ici à l'arrière et sœurs mortes et d'autres femmes âgées par ici se rappellent d'il y a quelques années. Si leur mère ou même elle-même avait marché dans la rue de la même manière que quelques-unes de ces femmes d'aujourd'hui, des membres d'église, se comportent dans la rue, les autorités les auraient enfermées, je vous dis, pour démence, pour folie, pour avoir oublié de mettre leur jupe. Bien si c'était de la folie, alors c'est de la folie aujourd'hui encore. Regardez le monde entier. Prouve qu'il a perdu la raison. Regardez au meurtre et à ces choses qui se passent dans le monde. Folie. Tout arrive pour accomplir l'apocalypse. Nous pourrions y arriver cette semaine à parler de ces choses hideuses.
Celles-ci ne sont pas naturelles. Ce sont les choses spirituelles qui sont, font crier les gens aux rochers et aux montagnes et à toutes choses pour qu'ils tombent sur eux. La folie totale, ce monde, il va droit dedans. C'est presque déjà là. C'est presque déjà là maintenant. Eh bien, vous pouvez voir ces traces. On y est. Elle marche là dans la rue, là en bas dans les travées de l'église. Folie totale, faisant des choses qu'aucun être humain civilisé penserait à faire. Regardez ce qu'Hollywood a fait à la femme. Regardez comment il a dérobé les vertus sacrées de la femme. Nous pourrions continuer ainsi. Voyez, tout ce qu'elle a perdu, comment l'a-t-elle fait? Parce qu'il y avait un instrument subtil appelé l'église. Comme il y avait dans le jardin d'Éden une personne subtile. Le diable a marché dans l'église. Le diable a marché dans l'église. Comme il avait fait dans le jardin d'Éden. Elle a trompé dans cela. Vous pouvez lire dans Corinthiens 11. Elle a été trompée. La femme ne pense pas être dans l'erreur. Telle que Ève ne pensait pas mal faire. Elle ne l'a pas fait volontairement. La Bible dit dans Timothée 3. Elle a été trompée. Et trompée, ce n'est pas quand vous le faites volontairement, mais quand vous êtes induit en erreur pour le faire. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Elle a été trompée par la télévision. Ce n'est pas qu'elle le fait volontairement, elle est induite en erreur de le faire. Regardez la télévision, les magazines, et par ces gens, toutes ces belles choses qui sont dehors dans la rue. Les filles modernes regardent les magazines, les photos, elles les regardent dans les rues, elles regardent les habits dans les boutiques. Comment Satan, ce grand instrument de l'enfer, est venu parmi les gens et les a trompés dans ces choses. Et la femme pense qu'elle est en ordre. Elle est morte et ne le sait pas. Elle est très loin de Dieu. Vous voyez comment elle a perdu tout cela et comment ceci fut subtil. Aujourd'hui, j'aimerais que vous remarquiez que Jésus a parlé de cela. Aussi, si vous le vouliez le dire, Jésus mentionna que cette chose se passera. Le saviez-vous? Dans ces dernières heures, juste avant la crucifixion, lisons-le simplement. Saint Luc, dans l'évangile de Luc, chapitre 23, et pour un moment, comme dans une leçon du dimanche. Commençons avec le verset 27. Je crois que je l'ai noté ici. Oui, je suis allant au calvaire. Écoutez pendant que je lis. Bien, dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 27, je crois que c'est là que je l'ai. Ma note s'est mise de cette manière. Oui, elle est là. Et une grande multitude du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et le pleuraient, le suivaient. Mais Jésus, se tournant vers elle, dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants, car voici des jours viennent dans lesquels on dira malheureuse, bienheureuse les stériles et les ventres qui n'ont pas enfanté et les mamelles qui n'ont pas nourri. Pensez à aujourd'hui la disgrâce pour elles d'avoir un enfant. Vous voyez? Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux coteaux, couvrez-nous, car s'ils font ces choses au bois vert, que sera-t-il fait au bois sec? Il parlait de ce jour où les femmes ne voudraient plus d'enfants. Elles veulent un chien ou un chat ou quelque chose comme cela, mais elles ne veulent plus d'enfants. Pourquoi? Elle est vieille, la mère Uber, n'est-ce pas, si elle a un enfant. Voyez, elle ne veut pas. Ce sont les remarques d'Hollywood qui ne veut pas qu'une femme soit une vieille mère ou bas. Ainsi, elle veut ou il veut qu'une opération leur soit faite, une de celles qui les empêcheront d'avoir des enfants. Ils ne veulent pas d'enfants. Jésus a parlé de cela. Et qu'a-t-il dit? À cette époque, ils commenceront à crier pour les rochers, sur les roches, pour les rochers, pour que les rochers et les montagnes tombent sur eux. Elle veut pratiquer le contrôle des naissances. Ainsi, elle peut se rendre dans les parties, etc. Elle ne veut pas être ennuyée par un bébé qu'elle doit allaiter. Cela la déformerait. Quand elle est enceinte, cela la déforme. Elle ne ressemble plus à ce qu'elle était habituellement. Et son mari est assez ignorant pour la laisser aller ce chemin. Et ne lui donnera pas un enfant. Jésus a parlé de cela. Et il a dit que quand ils feraient cela en leur temps, ils se mettront à pleurer à nouveau pour que les rochers et les montagnes tombent sur eux. Cela vient du Seigneur. Il paie de grandes sommes d'argent pour materner les chats, les chiens. C'est vrai. Elles doivent materner quelque chose parce que c'est une nature que Dieu lui a donnée. J'ai remarqué, je sache du gros gibier, une vieille ours à l'automne, quand elle s'est accouplée avec l'ours mâle et qu'elle a déjà des petits oursons, des petits oursons qui sont d'une assez bonne taille, pesant peut-être 100 livres ou plus. Elle les chasse et les fait hiberner par eux-mêmes parce qu'elles donneraient naissance à d'autres oursons en février. Ils naissent dans des petits sacs qui ressemblent à des petits sacs de cellophane. Comment est-ce que Dieu leur fait-il ouvrir eux-mêmes ces petits sacs? L'ours ne sait rien de cela. Ils trouvent leur chemin alentour. Leur mère est complètement endormie. Hein? Elle n'a rien mangé depuis octobre. Et maintenant, c'est février. Ils viennent autour d'elle pour allaiter jusqu'à mi-mai. Alors, quand elle voit ces oursons, ils ont déjà une assez belle, une assez bonne taille. Ils pèsent peut-être 15 livres chacun. Ils vont à elle pour allaiter. Comment a-t-elle du lait? C'est l'idée de Dieu. Elle vit pour elle-même et produit du lait pour les oursons. Et quand la reproduction ne prend pas, elle n'a pas d'oursons. Alors elle court après ceux de l'année précédente pour les materner tout le long de l'été. Parce que c'est l'instinct que Dieu lui a donné. Elle doit materner quelque chose. Et si une femme ne veut pas avoir d'enfant pour son mari, elle prendra un chien ou un chat ou quelque chose. Elle doit materner quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est sa nature. Mais porter un enfant pour son mari et le lever au service de Dieu, c'est entièrement en dehors de sa ligne de conduite. Si elle le faisait, elle tomberait en totale disgrâce dans cette société aimant le péché. Ce type de femme de 1965. Une véritable image de l'église moderne d'aujourd'hui. L'église moderne ne veut rien de ces cris, clameurs et de parler en langue, de ces jeunes tournant autour d'elle. Parce que c'est, n'est-ce pas? Parce que c'est accompli en eux. Acte 2, verset 38, est accompli en eux. C'est peut-être raison qu'ils se comportent comme ça. Ils louent le Seigneur, ils adorent le Seigneur en esprit. Elle ne veut aucun de ces cris de hurra, de ces cris et clameurs, de Amen et Alléluia. C'est pourquoi un tel enfant sera immédiatement jeté dehors de sa dénomination. Ils en ont eu un comme celui-ci dans une des églises. C'est pourquoi ils ont voulu le jeter dehors si rapidement. Pourquoi laissez-vous aller de telles choses? Ainsi, vous voyez, elle est fécondée par quelque chose parce qu'elle donne tout le temps naissance à des membres d'église. Mais elle ne veut rien des clameurs de ceux qui crient, hurlent et balbutent. Tiens, comme c'est dit dans Actes chapitre 2, verset 38. Elle pense que ce sont de misérables créatures. Mais ils se comportent comme ça à cause de l'œuvre accomplie de la rédemption. Cela les embarrasserait certainement, ces membres d'église et cette dénomination. Cela la ruinerait, cette société ecclésiale, éduquée, éthique, scientifique, à laquelle elle appartient. Il la jetterait dehors au prochain concile. Elle ne peut pas le supporter. Ainsi, elle ne veut pas être fécondée par la parole. L'unique espèce que peut produire la parole est être née de l'Esprit de Dieu, avoir l'Esprit de Dieu en soi. C'est l'unique espèce que peut produire la parole. C'est peut-être que nous devons prêcher la parole originale de Dieu, telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Pas d'intellectualisme, pas besoin de se joindre à une église, ni de suivre un credo ou une doctrine, pas de cheveux coupés, ni de visage maquillé. Il n'y a rien de tel dans notre parole. Vous ne trouvez pas cela dans la parole de Dieu. Vous trouvez un enfant démodé, sanctifié, rempli de Saint-Esprit, né de l'Esprit de Dieu, poussant des cris, des clameurs, hurlant, louant Dieu. Cela, tout ensemble, est hors de portée pour elle. Elle ne veut pas de cela. Oh, certainement, oui, oui, vraiment. Que fait-elle alors? Elle donne naissance à des visages maquillés, des femmes portant des shorts, une société de Jézabel, chatte, illégitime. Comme il les appelle. Je crois que c'est cela. Je crois qu'il les appelle chatte. Ils disent, regardez cette chatte qui va là-bas. Ou quelque chose comme cela. Vous savez, elle était née ou mariée. Elle était née ou mariée ou reliée à son premier mari. Le premier Adam. Pas Ève l'adultère, la femme d'Adam. Vous dites adultère. C'est sûr qu'elle était. Mais oh, elle prétend que ce premier Adam est mort. Oh, certainement, il est mort il y a longtemps. Je suis né de nouveau, dit-elle. Et je suis certainement marié au dernier Adam, Christ la parole. Maintenant, remarquez ce qu'elle aime alors. Observez son amant. Vous voulez voir ce qui est
de qui elle est amoureuse.
Est-elle amoureuse de la parole?
La parole dit cela, mais elle dit mon église dit ceci. Est-ce que vous comprenez? La parole dit cela, mais elle dit mon église dit ceci. Alors de qui est-elle amoureuse? Qui est son mari? Ses propres fruits prouvent ce qu'elle est. C'est exactement vrai. Montrant ce qu'elle est. Remarquez, elle était née premièrement d'Adam, parce que c'est sa naissance naturelle. Et elle n'a jamais quitté cela. C'est une amoureuse du monde. Elle prétend qu'elle est née la seconde fois de Christ. Elle prétend qu'elle est née la seconde fois de Christ. Mais son amant, remarquez, c'est encore Adam, parce qu'elle aime le monde. Et se conforme à ses chiens présents, marchant dans le train de ce monde. Et autre chose, remarquez quelle sorte d'enfant elle porte. Cela montre ce qu'est leur père. S'il était le premier Adam ou le dernier Adam. Si l'Église peut donner naissance à un enfant du dernier Adam, il a la manière d'agir du dernier Adam, agissant comme ils ont agi au jour de la Pentecôte. Ça c'est important. Si l'Église peut donner naissance à un enfant du dernier Adam, alors il va agir comme on agit les croyants le jour de la Pentecôte. Ce sont les véritables enfants du second Adam, vous voyez. C'est vrai, leur nature est comme la leur. Exactement, ces filles, visage maquillé, cheveux coupés, portant des habits d'homme, des pantalons, toutes sortes de choses. La Bible dit qu'elles ne doivent pas le faire. Elles coupent leurs cheveux, c'est une honte pour elles. Vous dites, taisez-vous sur cela. C'est ce que la parole dit. C'est ce que la parole a dit. Je mets seulement la nature en évidence. C'est ce qu'elles font. Ces fils nés d'elles comptent sur l'éducation, les écoles, les soi-disant écoles bibliques, sur quelques collèges de renom qui existe depuis longtemps, dans lequel, comme dans un incubateur, sont couvés des adeptes dénominationnels, des canaïtes religieux, qui sont tous aussi illégitimes que Caïn l'était, à la parole. Tout aussi illégitimes que Caïn l'était. Ils aspirent aux dénominations, vous voyez ce que c'est. Dieu n'a jamais organisé une dénomination. Il a toujours été contre cela, et la parole est contre cela. Mais ils y tiennent ferme. Ainsi, vous voyez ce à quoi ils donnent naissance. Cela montre quoi? Cela montre qui est exactement leur papa et leur maman. Tout aussi illégitime que Caïn était. C'était le genre d'enfant qu'il amena au monde par Ève. Ils se sont éloigné de la parole, et alors regardez ce que cela apporta. C'est exactement ce que l'Église a amené. La même chose. Je peux vous le prouver par la parole. C'est de là que l'éducation et la civilisation sont venues. Par Caïn. Tout à fait. Car ils revendiquent elles, être des fils de Dieu. Ils disent être des fils de Dieu, mais ils sont une espèce dénominationnelle. École dénominationnelle, étudiants et toutes ces choses. C'est exactement vrai. Aussi subtil et rusé que l'était le serpent, leur père. C'est vrai. Juste prééducateur. Aussi subtil et scientifique que Caïn l'était. C'est exactement la même chose. Vous dites, frère Branham, est-ce que c'est vrai? Allez dans Genèse 4, verset 16 et cherchez. Regardez, retournez là-bas dans Genèse 4, verset 16. Juste une minute et vous trouverez ce qui s'est passé. Et Caïn sortit de devant l'Éternel et il habita dans le pays de Nod, à l'Orient d'Édan. Et Caïn connut sa femme, et elle conçut et enfanta Enoch. Et il bâtit une ville d'après le nom de son fils Enoch. Là-bas à Tubal, là-bas avant qu'il ne commence, les inventeurs d'instruments de musique sont venus, et ainsi de suite. La civilisation est venue par Caïn, c'est vrai. Construisant des villes, des instruments. L'homme scientifique est venu par Caïn, la semence du serpent. Remarquez. Le verset 25. Et Adam connut encore sa femme. Maintenant, il l'a connue une seule fois. Regardez ici. Il l'a connue une seule fois. Adam l'a connue une seule fois. Et elle a eu deux enfants. Remarquez bien cela. Cherchez dans les Écritures. Elle a eu Caïn et Abel. Un acte et deux enfants. Mais il est écrit que Adam a connu sa femme une seule fois. Et Adam connut sa femme. Il est écrit en ce qui concerne plus tard, donc remarquez au verset seulement 25, il est écrit qu'Adam connut encore sa femme. Seulement au verset 25. Ils m'ont dit, il n'y a pas si longtemps que cela ne pouvait pas arriver. Nous avons justement un cas à Hollywood. Est-ce bien Hollywood? Nous avons vu un cas ici à Tucson. Justement maintenant, au tribunal, une femme donna naissance en même temps à un enfant noir et un enfant blanc. Ils ont dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle peut aussi avoir deux semences fertile. Oui, cela se passe en ce moment même au tribunal. Je sais que les chiens le font, les animaux le font. Et elle l'a fait là-bas. L'homme blanc a dit, je m'occuperai uniquement de mon enfant, mais pas du sien. Et la femme a fait sa confession. Elle avait été le matin avec son mari et l'après-midi avec l'homme de peau noire. Et le docteur a dit, si cela se passe dans les 24 heures, et si elle a une autre semence fertile, cela peut arriver. Si cela se passe dans les 24 heures, et si elle a une autre semence fertile, cela peut arriver. Et elle l'a fait ici à Tucson. Et c'est exactement ce qui s'est passé là-bas. Satan, le serpent, ce matin-là, et Adam l'après-midi. Elle a eu deux enfants. Puis Ève enfanta à Adam la seconde fois un fils. Rappelez-vous, il n'y a nulle part dans la Bible un endroit où il est dit que Caïn était le fils d'Adam. Il est dit que Caïn était du méchant. 1 Jean 3 verset 12 était du diable. Ce n'était pas d'Adam, mais du diable. Et Adam connut encore sa femme. Et elle enfanta un fils et appela son nom Seth. Car dit-elle, Dieu m'a assigné une autre semence au lieu d'Abel. Ce n'était pas la véritable semence. Car Caïn l'a tué. Et à Seth, à lui aussi naquit un fils et il appela son nom Enoch. Elle, alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ce n'est pas sorti de la généalogie de la génération de Caïn, mais de la généalogie de Seth. Ainsi Caïn est du méchant, du serpent. Maintenant remarquez que la Bible dit clairement ici que son premier mari doit être mort. Pas simplement mis de côté, mais il doit être mort. Je viens juste de prêcher sur le mariage et le divorce. Et vous savez tout cela. Je ne m'adresse pas maintenant à cette congrégation ici, mais à toute la nation. Eh bien, vous avez vu ce qui s'est passé là-bas dans mariage et divorce. Quand les sept sceaux ont été ouverts, cela a amené la réelle vérité à ce propos. Aussi, pour être marié au dernier Adam, Christ, la parole, vous devez vous séparer vous-même par la mort de votre premier mari dénominationnel. Parce qu'il n'y a aucun d'autre, il n'y a aucun d'entre eux qui puisse prendre toute la parole de Dieu. Montrez-moi simplement où il se trouve. Vous dites, oh mais le mien. L'autre compagnon dit aussi cela. Mettez-vous ensemble et vous trouverez que vous êtes les deux dans l'erreur aussitôt que vous créez une dénomination. Lisez Apocalypse 17. Ainsi vous voyez, vous devez être mort à cette chose. Maintenant, je ne parle pas à cette assemblée locale, mais à toute la nation. Vous devez être mort à votre premier mari. Si vous êtes unis à Christ et encore marié à une dénomination, vous êtes adultère. Vous êtes une Laodicée. Toute l'église à travers la nation dit, nous suivons Jésus-Christ la parole. Vous êtes dans l'épouse. Vous devez vous marier à la parole de Dieu, laquelle est Christ. Au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Et la parole devint chair et habité au milieu de nous. Aussi longtemps que vous vous attachez aux traditions des hommes, des dénominations, vous êtes appelé une adultère dans la parole de Dieu. Aussi longtemps que vous êtes un adepte des credos et des dénominations et des doctrines d'hommes, que vous appartenez à une dénomination qui nie la parole, vous êtes adultère. C'est ce que la Bible dit. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir deux dieux à la fois. Vous servez Dieu ou Mammon. Mammon, c'est le monde. Celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en lui. La semence de Dieu ne peut pas être en lui alors qu'au même moment, l'amour du monde est là, en lui. Quand la semence de Dieu opère au travers de vous, c'est la parole de Dieu. Et lisez dans 1 Jean 3, ici il est parlé de la semence de Dieu qui est en nous, qui demeure en nous. L'amour du monde ne peut pas être là au même moment. Là où il y a l'amour de Dieu, ce n'est pas possible. Maintenant, où se trouvent les cheveux courts et les shorts et les visages maquillés et les jupes serrées? Maintenant, où cela se trouve-t-il? Dans la parole? Non. Vous ne pouvez pas être vertueux à Christ, la parole de Dieu, et servir une dénomination faite de main d'homme en même temps. C'est contraire à la parole. Paul a dit ceci. Paul a dit ici, ou déjà, dans Romains 7, ni l'une ni l'autre de ces dénominations illégitimes ne peuvent porter des enfants de Dieu, produire des enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas le faire dans votre incubateur. Vous ne pouvez pas donner naissance à un fils parole de Dieu. Je parle ici de l'église, mais vous revendiquez toujours être des, très religieux, n'est-ce pas? Ainsi était Caïn, le fils d'Ève, la prostituée, fils très religieux, qui avait construit des hôtels, offert des sacrifices, payé sa dîme et faire toutes les choses que n'importe quel homme religieux ferait. Mais il a manqué de garder cette parole. Il a manqué d'avoir la révélation. Et la révélation est la seule chose, la révélation de la parole. Qu'est-ce qu'est une révélation? Jésus a dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de la fin ne prouveront pas contre elle. La foi est une révélation. Parce que la foi, ça a été révélé. Abel, par la foi, a offert par révélation, a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Caïn pensait qu'il avait mangé des pommes. Qu'il savait manger des pommes. Ils ont toujours cette idée. Mais ce n'était pas cela. C'était l'adultère, la fornication, la semence du serpent. Et quand les sept seaux ont été ouverts, cela a été déclaré et a été prouvé. Mon livre qui vient de sortir en parle. Je pense que nous en avons un millier ici. Un millier ici maintenant. Remarquez, ici est scripturaire de la Genèse. Ceci est scripturaire de la Genèse à l'Apocalypse. À la fin des temps, les deux arbres viennent à la semence et le prouvent eux-mêmes. Nous sommes là exactement aujourd'hui. La Odyssée et l'épouse, aussi claires et belles qu'elles peuvent être selon les Écritures, et juste devant vos yeux. Vous ne pouvez servir Dieu et maman en même temps. Vous ne pouvez pas être un chrétien vertueux, croyant à la Bible et vous associer dans une affaire dénominationnelle. Vous ne pouvez simplement pas le faire en même temps. L'un doit mourir pour laisser l'autre vivre. Vous ne pouvez pas porter davantage un fils parole de Dieu, pas plus que l'Église ne lui peut donner naissance. Ils ne veulent pas d'un de ses enfants qui crie, qui hurle, qui parle en langue et toutes ces choses. Vous ne pouvez pas faire cela dans une église dénominationnelle. Ils ne veulent pas de vous. Ils ne les amènent pas de cette façon. Ils les accueillent, serrant leurs mains et disent, si vous croyez, vous l'avez. Aussi longtemps que vous inscrivez votre nom sur le livre, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous voyez, ce sont des enfants illégitimes à la parole, prétendant toujours être religieux. C'est ainsi que l'Église a été fécondée de la sagesse et de la connaissance de Satan. Ils envoient leurs gens ailleurs, dans des écoles, où ils apprennent à dire Amen, comme il faut. Ils apprennent comment dire tout cela et à être très intellectuels. Qu'est-ce que c'est? C'est la fécondation du diable. Avec quoi est-ce que Satan a fécondé Ève? Pour qu'elle ne croie pas à la parole, mais à des raisonnements intellectuels. Et l'intellect a ruiné toute la création. C'est exactement ce qu'a fait l'Église dans la parole aujourd'hui. Elle s'est fécondée elle-même avec les écoles bibliques, les collèges et toutes ces choses, comme la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Ils connaissent autant Dieu qu'un autantote en aurait connu au sujet d'une nuit égyptienne. Ils connaissent tous leurs credos, leurs livres de prière et toutes les autres choses. Mais ils ne savent rien de Dieu. Ils devraient connaître quand la parole de Dieu est confirmée. Ils devraient la reconnaître. Quand Dieu parla autrefois et qu'il attribua sa parole à chaque génération qui apparaissait. Voici apparaître Noé qui prêche à sa génération. Maintenant, que se serait-il passé si Moïse était venu en disant, construisons une arche. Il aurait été tout à fait déplacé, mais il était un prophète. Il avait la révélation de Dieu. Dieu confirma que c'était la vérité. Il fit sortir les enfants d'Israël et leur montra la colonne de feu devant eux qui confirmait le prophète. Et il dit exactement ce qu'il ferait. Et il l'a fait. C'est merveilleux. Il l'a confirmé, le prophète. Et il a dit exactement ce qu'il ferait. Et il l'a fait. Ils ont dit que Dieu ne parle point avec nous. Laisse parler Moïse. De peur que nous ne mourions. Il a dit, je ne leur parlerai plus jamais de cette façon, mais je leur enverrai des prophètes et ils parleront. Là, Esaïe s'est levé disant, une vierge concevra. Un homme comme lui, comment pouvait-il prétendre qu'une vierge allait concevoir? Car un enfant vous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Et on appellera son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Père éternel. Prince de la paix. à l'accomplissement. À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin. Ésaïe 9, verset 6. Comment cela allait-il se passer? Il ne le savait pas. Il a juste répété ce que Dieu a dit. C'est au-delà de l'imagination et de l'intellect. C'est au-delà de toute recherche scientifique. C'est la parole de Dieu. Maintenant, nos écoles, nos séminaires et toutes les sortes de théologies de la Bible et ces choses sont des théologies faites de la main et de l'homme. Cela a formé un groupe d'église, exactement comme Dieu a dit que cela serait une Laodicée. Oh mes frères, quand je regarde à cela, cela me fait frissonner. Ce qu'on est de conception intellectuelle, vous devez être diplômé d'une grande école avant que vous ne puissiez même entrer. Vous devez passer devant le psychiatre avant que vous puissiez être ordonné. Pouvez-vous vous imaginer Pierre, Jacques et Jean aller devant le psychiatre? Rappelez-vous qu'il y en avait là-haut qui ne connaissaient même pas signer, qui ne pouvaient même pas signer leur propre nom. Passer devant le psychiatre pour avoir si tous leurs réflexes étaient corrects et ainsi de suite. Ils avaient une réaction, mais cela n'était pas une conception intellectuelle ou de la recherche scientifique. C'était au travers de la puissance de Dieu. Quand cela les avait frappés, ils ne savaient rien faire d'autre qu'agir selon ce que l'Esprit Saint leur disait de dire et de faire. Ils n'attachaient aucune importance aux choses intellectuelles, à ce que l'Église ou à ce que les prêtres disaient. Et à ce que ceci ou cela disait, ils étaient mûs pour l'esprit des hommes sans peur. 1 Jean 5, 2 verset 15 dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Aussi, comment pouvez-vous être fécondé de la parole de Dieu qui condamne le monde, condamne Hollywood, condamne toutes ces modes, condamne toutes ces parties, comme c'est écrit aussi dans Éphésiens chapitre 5, et continuer avec toutes ces choses qu'ils ont au nom de la religion. Elle les condamne. Comment la parole peut-elle féconder une personne? Comment une femme peut-elle l'être avec ses cheveux coupés, son visage maquillé, portant des shorts, des mini-jupes, des jupes serrées? Comment est-ce qu'elle peut avoir été fécondée par la parole? Ce n'est pas possible. Comment un prédicateur peut-il aller là-bas, dans un séminaire, et regarder à Actes 2, verset 38, voir qu'il n'y a pas une personne dans la Bible qui ait jamais été baptisée dans ses titres, et malgré tout, continuer à dire qu'il est fécondé de la parole de Dieu? Il vous raconte un mensonge. Il a vendu son droit de naissance. Il a commis un adultère contre la chose même qu'il a dit. Il est renvoyé et divorcé. Dieu aura une église vertueuse. Tout simplement une épouse. La Bible a dit, la parole n'est pas en vous. Aussi, quelle sorte d'enfant portez-vous? Fécondé d'une dénomination. Il n'y a eu aucune mort pour vous séparer de votre premier amant. Que diront les Jones si je vais en criant et en parlant en langue? Que penseront-ils si je suis rebaptisé? Quel non-sens! Êtes-vous marié au John? Êtes-vous marié à l'église? Ou êtes-vous marié à Christ la parole? Donc posez la question, que dirait la parole? Mais pas ce que dirait l'église. Maintenant, c'est pourquoi elle continue à porter ses enfants et à produire de telles sortes d'enfants. Quelle sorte d'enfants a-t-elle? Elles sont quelques-uns des noms. Ici sont quelques-uns des noms qu'ils ont aujourd'hui. Cats, Beatles, Monsters, Ricky, Ricketta, Kate, Beatles, etc. Ce sont des membres d'église, certainement oui, des fils de Caïn, lesquels sont des enfants de la bête subtile, juste aussi onctueux qu'ils peuvent l'être. Maintenant, inspectez pour un moment votre âme avec votre propre vue intérieure spirituelle. Regardez simplement autour de vous. Je parle ici au travers de la nation maintenant. Regardez juste quelques minutes. Vous ici, au tabernacle Branham. Vous, dans les tabernacles de la côte ouest et en Arizona. Et partout où vous êtes inspectés. Inspectez-vous. Examinez-vous pendant quelques minutes. Vous dites, ce message que vous prêchez, frère Branham, est faux. Comment est faux? Regardez-vous, vous-même, juste un peu. Laissez l'Esprit Saint sonder votre esprit avec la parole. Vous serez d'accord avec ce message. Laissez Christ, la parole, oindre votre propre conscience. Laissez-le venir en vous. Voyez si cela est juste ou pas. Ce sont juste une ou une autre ou deux choses. Alors, qu'il y en a certaines d'autres. Oui, sûrement. Vous dites que ce sont juste une ou deux choses, alors qu'il y en a des centaines d'autres. Est-ce que la Bible est d'accord avec une femme qui coupe ses cheveux? Est-ce que la Bible est d'accord avec un, un baptême dans les trois titres, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Rien de tout cela. Est-ce que la Bible est d'accord avec une femme qui porte des vêtements d'homme? Prenez juste ces trois-là. Alors il y en a des centaines d'autres. Sondez-les à la lumière des paroles de Dieu. Vous dites, je suis membre d'une église. Caïn l'était aussi. Ève l'était aussi. La Bible prédit que dans les derniers jours, il y en aura de même pour l'Odyssée. Il en sera de même pour l'Odyssée. Laissez le Saint-Esprit sonder votre conscience et vous serez d'accord avec Daniel 5, verset 12. Quand la reine est venue devant Bethesda et a dit, elle a découvert qu'il y avait là-bas un prophète, Daniel, était au milieu d'eux. Et il était celui qui dissipait les doutes. Laissez venir le Saint-Esprit. Il est le prophète du jour. Laissez-le venir dans votre cœur. Ici maintenant, examinez le message avec la parole de Dieu et les doutes à son sujet seront tous dissipés. Il dissipe tous les doutes, tous les doutes. Vous trouverez que c'est exactement la parole pour ce jour. Vous ne pouvez pas prêcher aujourd'hui le message de Luther. Il est inclus. Ce sont les pieds. Vous ne pouvez pas prêcher Wesley. Vous ne pouvez pas prêcher la Pentecôte. Nous sommes complètement au-delà de cela. Ils ont fait des dénominations. Ils sont morts. Ils sont la tige. La tige est venue avec la feuille lors de la première condition de l'Église. Maintenant, cela ne ressemble pas au premier grain qui est allé dans la terre, le blé lui-même. Est-ce que vous comprenez? Le second qui est venu fut le pôle. Cela ne ressemble pas encore au grain. Cela y ressemble plus. Cela vient à ressembler plus à l'image du grain réel. Mais les feuilles sûrement ne ressemblent pas au grain qui est allé dans la terre. Les feuilles étaient porteuses de la vie qui était dans le grain. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont fait une dénomination, exactement comme toutes les autres de même nature. Cela s'emboîte. Elle mourut. Alors la vie est montée droit dans l'épi. Il a un paquet complet de petites boules qui lui sont suspendues. Cela ressemble à de petits grains. Cela ressemble au véritable grain, mais cela ne l'est pas. Ensuite, elle tombe dans la balle. Et à quoi cela donne-t-il naissance? À une balle. Maintenant, vous prenez un grain de blé. Quand le blé vient en premier, comme Jésus a dit, un épi de blé, et vous prenez cet épi et vous l'ouvrez, vous le tirez de la tige, vous le regardez, vous dites, nous avons un grain de blé. Soyez prudent. C'est exactement comme le grain de blé. Mais il n'y a pas le moindre grain à l'intérieur. C'est la balle. C'est encore la balle. Les pentecôtistes en sont là. Tout comme Matthieu 24, verset 24, dit de manière à séduire, si possible, même les élus, dans les derniers jours. Mais vous tirez en arrière feuille par feuille. Vous ne trouvez aucun grain. Le grain est tout en arrière de cela. Et alors la vie quitte cette nation. Elle va dans le grain. Que se passe-t-il alors? Quand le grain commence à grossir et qu'il devient plus gros, il dépasse du lieu où il a grandi. Alors, la dénomination le rejette. Pourquoi n'avons-nous pas de dénomination de ce message? Il n'y en aura jamais. C'est le grain. Cela ne peut pas aller plus loin. Nous sommes à la fin des temps. Que doivent-ils faire maintenant? Ils doivent se reposer en présence du soleil pour mûrir. C'est exact. La parole doit mûrir dans votre cœur pour donner naissance et vivre ce dont nous parlons. C'est elle qui nous donnera de vivre selon nous parlons. Certainement. Alors, vous n'avez plus de doute si vous laissez le Saint-Esprit vous le révéler. Comme la reine a dit au sujet de Daniel. Oh oui, vous dites, vous pourriez dire, qu'est-ce que tout ceci a à voir avec un message de remerciement? De quoi parlez-vous, frère Branham? C'est 9h moins de quart ici. Vous n'avez rien dit à propos de remerciements. Quel message pour cette occasion? Oui, vraiment. Les pères pèlerins étaient très reconnaissants pour la nouvelle manière de vivre qu'ils avaient découverte. Étant séparés de leur vieille dénomination anglaise et de ses credos, ils pouvaient se marier à la nouvelle parole ouinte pour leur âge. C'est vrai, la nouvelle parole ouinte pour leur âge, pour leur jour. Aussi pouvons-nous être reconnaissants en tant que pèlerins, comme Abraham. Nous-mêmes séparés des choses du monde et de tout ce qui s'y associe. Abraham était un pèlerin. Dieu nous a séparés de toutes les religions mortes. Je parle au travers de la nation maintenant. À tous les doctrines mortes. Pour aller où? Il nous a séparés de tout cela. Et nous a ouvert un pays nouveau. Un message nouveau pour ce jour. La Pentecôte a cessé. Elle est morte. Comme Luther, Wesley et le reste des autres. Ce n'est rien d'autre qu'un tas d'églises mises ensemble. Maintenant les gens de bien à l'intérieur doivent sortir. Qu'a-t-il fait? Il a ouvert les sept sceaux. du dernier message. Avez-vous remarqué cela? Les sept sceaux avec lesquels étaient scellés les mystères des sept âges de l'Église, avec les sept sceaux. Les réformateurs n'avaient pas le temps de le faire dans leur âge. Ils n'ont pas vécu assez longtemps. Mais cette révélation bénie des sept sceaux nous a été ouverte dans ces derniers jours par une prophétie qui est sortie d'Arizona. J'ai demandé au Seigneur l'autre jour, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici dans ce désert? Savez-vous que Moïse a écrit l'Ancien Testament? Il a fait certainement les premiers cinq livres qui donnent les lois et toutes choses. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Oui, il a écrit l'Ancien Testament. Pour faire cela, il a dû quitter tout ce qui lui était associé et bien aimé pour aller dans le désert. Paul a écrit le Nouveau Testament, c'est vrai. En grande partie, il a écrit Romains et tout le reste là-bas, Hébreux, Timothée et ainsi de suite. Et pour faire cela, il a dû se séparer lui-même des autres et aller en Arabie, dans un désert, pour 3 ans, afin de recevoir la révélation de Dieu. Oh, vous dites, et alors, qu'en est-il de Matthieu, Marc, Luc et Jean? Ils étaient des scribes qui ont juste écrit ce que Jésus a dit. Paul a mis tout en ordre et a rassemblé toute la parole, c'est vrai. Bien, alors regardez s'il a pris cela. Il devait aller dans un désert, loin de ses bien-aimés. Remarquez, vous, la prédication que j'ai tenue, monsieur, quelle heure il est. Combien d'entre vous l'ont entendu? Dites Amen. N'était-ce pas exactement vrai? Alors, nous avons la révélation dans ces choses, dans ces derniers jours du message du Seigneur Dieu pour rassembler son épouse. Cela n'a pas été promis dans aucun autre âge. C'est promis dans cet âge ici. Malachie 4, Luc 17, 30, Jean 14, 12, Joël 2, 38. Ces promesses étaient juste exactement comme Jean-Baptiste les avait identifiées pour lui-même dans les Écritures. Jésus s'est identifié lui-même. Quand il dit, éloignez-vous d'une telle personne, Jean est un homme sauvage. L'Église ne fut pas capable de le recevoir. Ceci est un modèle. L'Église d'aujourd'hui ne le recevra pas non plus. Mais Dieu est en train d'appeler les élus. Les élus savent cela. Ils appellent l'épouse vertueuse la parole. Oui, l'Église du dernier jour, la dame élue de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole. Si Jésus est la parole, combien croient cela? Combien croient cela? Très bien. Alors, l'épouse est toujours une partie de l'époux. Ainsi, l'épouse ne sera pas une dénomination. Cela doit être la parole manifestée pour être l'épouse de Christ. Elle doit être obligatoirement la parole manifestée. Il a promis de le faire. Il a dit comment il le fera. Il ne perd jamais son modèle. Il a toujours précédé par modèle. Il a fait chaque jour, chaque fois, selon le modèle. Il le fait à nouveau, appelant d'abord son épouse, appelant dehors son épouse, vertueuse, dans les derniers jours, la belle Rebecca, attendant son Isaac. Quel temps magnifique! Dans ce contexte, appartiennent les deux livres qui vous sembleront mystérieux lorsque vous lirez le livre sur les sept âges de l'Église et les deux livres. Pour ce qui concerne le livre de vie, les uns disent que si votre nom y est écrit, il ne peut y être enlevé. D'autres disent qu'il peut retrancher votre nom du livre de vie. Cela ici le rend parfaitement clair. Je vais m'arrêter peut-être quelques minutes sur quelques notes et saisir cela avant que nous terminions. La vie est une chose sacrée.
Une chose sacrée pour Dieu. Et cela est enregistré dans un livre. Dieu est l'auteur de la vie. Croyez-vous cela? Notre vie naturelle ici, celle que nous avons ici, est juste une perversion. Elle aurait dû être la vraie vie pour commencer, mais elle est pervertie par la naissance naturelle. La première vie ou votre première union, vous y participez lors de votre naissance par nature. Un acte naturel, un être humain naturel associé, homme et femme ensemble, associés ensemble dans une affaire sexuelle, qui a amené votre vie ici. Et cela est associé avec le péché et la mort. Comment pouvez-vous manquer de voir la semence du serpent? Quand vous voyez la femme, c'est un dérivé. Il n'y a pas d'autre femelle comme elle, faite de cette façon, de manière à ce qu'elle puisse être trompée. Dieu savait. S'il ne connaissait pas la fin depuis le commencement, il ne serait pas Dieu. S'il n'était pas infini, il ne peut pas être infini sans être omniscient, omniprésent, connaissant toutes choses, éternel. Ainsi, il connaissait toutes choses et il devait faire cette femme. L'homme n'avait pas de femme. La femme et l'homme étaient une même chose. Elle avait l'esprit masculin et il avait l'esprit masculin et féminin en lui. Dieu devait séparer, tirer un dérivé, alors que toute la création avait été faite. Aucune femelle créée par Dieu dans la création originale ne pouvait faire une chose comme celle-là. Elle a été faite ainsi pour faire cela. Il savait qu'elle le ferait. S'il ne le savait pas, il ne serait pas Dieu. Mais regardez, les attributs qui sont en Dieu devaient être manifestés. Il devait être un sauveur. Et il l'a fait d'une manière parfaite, de telle sorte que rien ne pourrait être perdu. Oui. Oh, ne soyez pas des enfants, soyez des hommes et des femmes. Nous sommes à la fin de la route. Et il l'a fait d'une manière parfaite, de telle sorte que rien ne pourrait être perdu. Remarquez, maintenant que c'était la nature qui était associée à la mort, votre premier mari qui avait le pouvoir sur vous, c'était votre nature reçue avec la naissance naturelle. Ça, c'était votre premier mari. Votre nature reçue par la naissance naturelle, c'était ça votre mari. Naturellement, vous aimez le monde parce que vous êtes le monde et une partie du monde. Est-ce vrai? Votre désir était par nature d'aimer le monde auquel vous appartenez. Vous êtes une partie de la nature. Croyez-vous cela? Ceci est votre état naturel. C'est pour cette raison que vous devez naître de nouveau. Vous devez vous séparer. Vous devez mourir à ce premier mari. Vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas simplement dire, bien, je divorce, je divorce de lui. Et je le suspends ici jusqu'à une prochaine occasion. Certainement pas. Pas de lettre de divorce. Il est mort. La nature du monde doit mourir. Votre première nature, chacune de ces petites parties doit mourir. Vous devez être réunis à nouveau à une autre nature. Avec une autre nature, vous devez de nouveau être unis à nouveau à une autre nature. Quand vous êtes né, le nom de votre première nature a été placé dans le livre de vie. Et toutes vos œuvres y sont aussi inscrites. Chaque chose que vous avez faite sous cette nature a été mise dans un livre appelé le livre de vie. Vous remarquez dans Daniel, lorsqu'il vient vers l'ancien des jours, dont les cheveux sont aussi blancs que la laine, 10 000 fois 10 000 sont avec lui pour le servir, l'épouse, et alors que les livres ont été ouverts, un autre livre a été ouvert. C'était le livre de vie. Il y a déjà des saints là-bas. L'église, l'épouse était déjà là. Et autres livres ont été ouverts. C'était le livre de vie. Mais si vous avez été séparé de cette union par la mort spirituelle, votre désir naturel est de couper vos cheveux. Mais si vous avez été séparé de cette union par la mort spirituelle, alors votre désir naturel est de couper vos cheveux, de porter des choses, de maquiller votre visage, votre désir naturel est d'être intellectuel, un homme intelligent pour connaître mieux que les autres. Cela, c'est ce qu'Ève voulait. C'est exactement cette chose qu'elle voulait. Eh bien, vous dites, vous êtes moins que rien, prédicateur à 4 sous. Ils se tiennent là-bas et me disent, j'ai un doctorat en philosophie, un diplôme, une licence, etc. Cela ne fait que vous éloigner un peu plus de Dieu. Juste chaque fois que vous y ajoutez un de plus, c'est juste, c'est vrai. Vous voyez, c'est ce qu'Ève a pris. Elle a été fécondée avec cette sorte de semence. C'est ce qu'est l'église d'aujourd'hui. Des églises bibliques, des intellectuels. Et regardez, chacun est en désaccord l'un avec l'autre. Un grand gâchis. Exactement. Ce que la Bible dit, Babylone, l'épouse sait où elle se tient. Elle est peu nombreuse. Il n'y en aura pas beaucoup qui seront sauvés. Juste un petit nombre. Vous dites, eh bien, ils disent des milliers. Oui, mais ils sont aussi venus au travers des 2000 ans, des 2000 ans de chaque âge, d'où ils sont sortis, de l'âge de Luther, et ensuite de ce groupe est mort, car ils en ont fait une dénomination. Puis Wesley est venu.
ensuite les pentecôtistes, et ainsi de suite. Et toutes ces petites branches de baptistes, presbytériens, méthodistes, nazariens, pèlerins de la Sainte-Trinité, et ainsi de suite. Vous voyez, toutes ces branches sont sorties de là comme une feuille. Mais rappelez-vous, quand il est tombé, le grain a commencé à mûrir. Vous trouverez qu'avant que le grain ne mûrisse, chaque chose de cette tige devait mourir. Alléluia. Ne voyez-vous pas où nous nous trouvons? La vie est à nouveau dans le grain. C'est là que nous nous trouvons. Qu'est-ce? Exactement. Pareil au grain qui est tombé en terre. Le même Jésus dans la forme de l'épouse. Même puissance, même église, même chose, même ministère, même puissance. La même parole absorbée au travers de ceux-ci est sortie ici et venue vers une tête. Là. Et toute cette vie qui est venue à travers cela a ramassé ces gens pour prendre la forme d'une tête en vue de l'enlèvement. Je parlerai de cela pour former une tête en vue de l'enlèvement. Je parlerai de cela demain soir ou alors de la soirée suivante, le Seigneur voulant. Quand vous êtes séparés de votre première union par la mort spirituelle, vous naissez et remariez et remariez à la nouvelle union spirituelle. Vous naissez, remariez à la nouvelle union spirituelle par celle de votre vie naturelle, des choses du monde, mais celle de la vie éternelle. Pas celle de votre vie naturelle, des choses du monde, mais celle de la vie éternelle. Donc, vous naissez remarié à la nouvelle union spirituelle, à la nouvelle union, à celle de la vie éternelle. Ce germe qui était en vous, au commencement, vous a trouvé. Maintenant, votre ancien livre est parti avec votre ancienne union et votre nom a été transféré. Vous dites maintenant, vous pensez me dire que mon ancien livre, Dieu l'a mis dans la mer de son oubli. Vous vous tenez parfaitement devant Dieu. Maintenant, votre nom est dans le nouveau livre. Pas dans le livre de vie, mais dans le livre de vie de l'agneau. Ce que l'agneau a racheté. Pas le livre ancien de votre union naturelle, car vous êtes la nouvelle épouse. Alléluia. Votre nouvelle vie est dans le livre de vie de l'agneau, votre certificat de mariage. Alléluia. Là où votre véritable germe éternel prend racine dès le commencement. Maintenant, vous n'êtes pas seulement pardonné, mais vous êtes justifié. Gloire. Justifié. Romains 5, verset 1 dit, ayant donc été justifié sur le principe de la foi. Regardez le mot. Le mot veut dire justifié. Cela ne signifie pas que vous êtes pardonné. Mais exemple par exemple, vous apprenez que j'étais ivre et que j'ai fait de mauvaises choses. Et tout cela, alors vous venez vers moi et vous découvrez que je ne l'ai pas fait. Ainsi vous venez vers moi et me dites, frère Branham, je vous pardonne. Me pardonnez, mais pour commencer, je n'ai pas fait ces choses. Maintenant, si je les avais faites, je serais coupable. Et alors, vous pourriez me pardonner et je ne serais plus coupable. Mais maintenant, je ne suis pas justifié parce que je l'ai réellement faite. Le mot justifié est comme si vous ne l'aviez jamais fait. Cela n'est même pas du tout considéré. Je ne serais pas justifié parce que je l'ai. Vous comprenez ce que je veux dire? Je répète. Et je ne serai plus coupable. Mais maintenant, je ne suis pas justifié parce que je l'ai réellement fait. Le mot justifié est comme si vous ne l'aviez jamais fait. Cela n'est même pas du tout considéré. Comment cela se fait-il? Le livre a été jeté dans la mer de l'oubli de Dieu. Votre vieux livre et votre ancien mariage a été dissous, est mort. Ce n'est même plus dans la mémoire de Dieu. Amen. Vous êtes justifié. C'est pourquoi, étant justifié, wow, vous étiez accusé, premièrement. Vous ne l'aviez jamais fait. L'ancienne union est dans la mer de l'oubli de Dieu. Tout d'abord, vous n'étiez pas marié avec cela. Lui, l'époux, a porté lui-même votre honte pour vous à votre place. Il a pris votre place parce que vous étiez prédestiné pour lui, avant la fondation du monde, à être son épouse. La Bible dit, vous êtes la semence prédestinée. Comment en êtes-vous venu à faire cela? Vous avez été trompé en cela par votre premier mariage, par votre parente adultère, Ève. Ce n'est pas votre propre faute. Par votre naissance naturelle, vous venez après Ève qui a commis l'adultère. C'est la raison pour laquelle vous étiez né adultère. Vous étiez un pécheur dès le commencement. C'est vrai.
vous avez été trompé en cela. Non, ce n'est pas votre faute. Vous ne l'avez jamais fait. Parce que ce petit germe qui était en vous devait être en vous avant la fondation du monde. Dieu a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau. C'est comme l'histoire de mon petit aigle. Vous l'avez tout entendu. Une fois, un vieux fermier arrangeait un nid pour une poule. Il n'avait pas assez d'œufs pour mettre dessous la poule. Aussi, il trouva un œuf d'aigle et l'y plaça. Quand l'aigle naquit, c'était le poulet. Le plus drôle que les poulets aient jamais vu. Oh les petits aigles, avance-toi. Les poules allaient. Cloc, 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 cloc. Petit aigle dit, je ne sais pas à quoi ressemble le son de cette chose, mais je suis de toute façon. Et il va là-bas, dans la basse cour, et commence à gratter dans la cour, et commence à gratter dans les piles de fumier. Et la poule va, cloc, 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 c'est bon, c'est bon. Joins-toi à nous. Ce petit aigle ne pouvait pas manger avec cette sorte de nourriture. Il était juste allé avec les poulets parce qu'il ne savait pas. Il ne savait pas que faire. Et elle est allée dehors là-bas et elle attrape ceci et attrape cela. Le petit aigle devait juste le digérer. Il ne savait pas comment le faire. Mais il avait vu tous les poulets le faire. Mais il y avait quelque chose de différent. Il n'aimait pas cela. Un jour, la mère aigle a su qu'elle avait pondu deux œufs. Alors, elle commença à chasser pour trouver l'autre, voulant là autour, cherchant, comme le glorieux Saint-Esprit un jour. Elle vola au-dessus de la basse-cour, cette dénomination. Elle regarda là en bas et elle vit son bébé. Elle cria, c'était la voix de quelque chose qui faisait des échos au-dedans de lui. Oh, cette voix semble juste. Oh, laissez le véritable germe naître. Prédestiné par Dieu, écoutez la parole de Dieu. C'est une musique pour lui. Il sait que c'est la vérité. De toute façon, il était fatigué de cette baliverne dénominationnelle. Joins-toi à nous. Viens avec nous. Nous avons une réception mondaine. Nous avons ceci, nous avons cela. Cela ne semblait tout simplement pas correct à ce petit compagnon. Elle a dit, en tout cas, fils, tu n'appartiens pas à ce groupe. Tu m'appartiens, tu es mien. Il dit, maman, cela semble véritable. Comment vais-je faire pour sortir d'ici? Fais simplement un saut, je t'attraperai. C'est tout ce que tu dois faire. La parole de Dieu, ouinte, confirmée devant chaque homme né pour être un fils de Dieu, avec le germe prédestiné en lui, pour cette heure, fera qu'il voit le message de Dieu aussi sûrement qu'il y a un Dieu dans le ciel. Martin Luther l'a vu pour son temps. Wesley l'a vu pour le sien. Les pentecôtistes l'ont vu pour le leur. Maintenant, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de vous? Eux sont allés dans les dénominations ici et là. Ici est la parole qui les condamne, qui vous dit exactement ce que nous devons avoir aujourd'hui. Juste exactement Malachie 4 et toutes les autres promesses de l'heure. Que voyez-vous? À quoi regardez-vous? Amen. Nous sommes ici. L'authentique aigle est ici. Mes brebis connaissent ma voix. Ils ne suivront pas un étranger. Pourquoi? Cela est dit à cause de la prédestination. Vous étiez préordonné fils de Dieu. Vous étiez en Dieu avant la fondation du monde. Vous êtes uniquement manifesté en ce jour pour son honneur, à sa gloire. Comment pouvez-vous le faire sans honorer sa parole? Certainement, vous êtes une partie de cette parole par prédestination. Parce que, regardez, Dieu est la parole. Le croyez-vous? Eh bien, alors, il a toujours été la parole. Au commencement, c'était la parole. Et si la parole était Dieu, alors vous étiez en Dieu. La parole, la partie que vous devez jouer était en Dieu. Avant la fondation du monde, il vous avait vu, il vous connaissait, il vous a prédestiné. Il vous a prédestiné. Pour cela, je vous le dis, juste comme cet aigle qui a reconnu cette voix. Tout comme un véritable chrétien né de nouveau reconnaît la voix de Dieu parlant au travers de la parole. Quand il la voit ouinte et confirmée. Voyez, il leva les yeux. Il n'a pas vu cette vieille foule clouc-clouc là autour. Joins-toi à nous et viens ici et va à ceci et à cela. Il a vu un être comme il voulait devenir. Volant dans les airs, criant en liberté, en haut, dans les cieux. Au-dessus de tous les vautours au-dessus de tous les vêtements et des choses de la terre. Alléluia. Il voulait être cela parce que c'était en lui de l'être. Et un homme qui est né de Dieu, un fils de Dieu, doit avoir la nature de Dieu. Il doit être comme Dieu. Il honore Dieu et il est une partie de la parole de Dieu. Et dans ces derniers jours, son épouse prend forme juste exactement par la même puissance qui était en lui au commencement. Elle passe au travers de cette organisation et ainsi de suite et sort pour l'épouse. Et ainsi de suite et sort pour l'épouse. Cela ne peut être rien d'autre. Ils auraient pu le voir, ils auraient dû le voir, les Juifs dans leurs jours, quand ils l'ont vu manifester là devant eux, comme les prophètes avaient dit qu'il serait. Il a dit, cherchez dans les Écritures, en elles, vous croyez que vous avez la vie éternelle. Ce sont elles qui témoignent de moi. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais même si vous ne pouvez pas croire en moi, croyez en les œuvres que j'ai faites. Ils ont dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. Nous savons où nous en sommes. Il a dit, et ils sont tous morts. Cela est la séparation éternelle. Chacun d'entre eux mourut. Il y avait seulement 3. 2 sur 2 millions. Cela fait 1 sur 1 million. Lors d'une insémination de sperme du mâle, la femme, la femelle, a en principe un œuf fertile. Il y a un œuf, un germe qui est fertile. Avez-vous jamais vu des croisements parmi le bétail? Remarquez, il y a 1 million d'œufs. Il y a 1 million de germes. Et quand ils sont déchargés pour venir ensemble dans la matrice, venant depuis le tube dans la matrice, ils se rencontrent. Un d'entre eux est œuf, un seul pour 1 million de germes. Il y a un seul œuf là-dedans qui est fertile. Il y a un seul germe fertile. Ils sont tous en vie. Vous pouvez observer ces petits veaux s'agitant là autour. De petits points que vous pourriez mettre sur une tige d'allumette. Et Demos et les autres qui écoutent ce soir se rappellent quand Demos m'amena en bas et me montra comment cela marchait avec ses éprouvettes. Et il a mis autant qu'il pouvait en mettre sur le bout d'une allumette. Et il y avait là des milliers de petits veaux et de taureaux. Mais seulement un d'entre eux pouvait vivre. Seulement un d'entre eux. Il y en avait une grande pelote ici. Et vous remarquez qu'un parmi eux va ramper dehors, aller directement vers l'œuf. Il vient ici et un œuf va sortir de parmi tous les autres. Œuf là-bas. Et ils se rencontrent. Et le reste d'entre eux meurt. Maintenant, ils sont en vie. Mais ils meurent parce qu'il y a quelque chose. Quelqu'un a rendu celui-là fertile et a destiné celui-ci aussi. C'est la prédestination, mon frère, certainement. Dieu doit déterminer si ce sera un garçon ou une fille. Rouquine, noiro ou de n'importe quelle couleur. Cela est déterminé par Dieu pour moi. C'est plus mystérieux qu'une vierge donnant naissance. Mais remarquez que le reste d'entre eux meurent. Ils étaient 2 millions de gens à sortir. Ils ont chanté, crié, tout fait. Ils n'ont pas parlé dans une autre langue, mais ils ont crié, donné gloire à Dieu, dansé sur le bord de la mer et fait toutes les choses que tout le reste d'entre eux avaient faites. Mais il y a seulement 2 qui sont allés dans le pays promis. Caleb et Josué, seulement 2. Cela fait 1 sur 1 million. C'est un sur un million dans la naissance naturelle. Chacun d'entre eux avait la même bénédiction. Oui. Oh, vous pentecôtistes, j'espère que vous ne vous réveillez pas trop tard. 1 sur 1 million. Regardez, on suppose qu'il y a 500 millions de soi-disant chrétiens dans le monde aujourd'hui. Si Jésus venait, il serait alors seulement 500 à aller avec lui, si cette statistique s'avérait correcte. Eh bien, il y a plus de personnes que cela qui disparaissent chaque jour dans le monde. Et on n'en sait rien. Tu comprends, disent les scribes. Vous savez que le... Pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Demandèrent-ils à Jésus. Il a dit, Élie est déjà venu et vous ne le savez pas. Il a fait exactement ce que l'Écriture a dit qu'il devait lui arriver. A dit qu'il devait lui arriver. Aussi le Fils de l'homme doit souffrir. Ils ne l'ont pas reconnu. Néanmoins, ils étaient tous dans l'église. Tous prétendaient qu'ils étaient vivants. Vous dites un véritable chrétien né de nouveau, un véritable serviteur de Dieu, écoute cette parole de Dieu. Vous dites que vous êtes un véritable chrétien né de nouveau, un véritable serviteur de Dieu. Écoutez donc cette parole de Dieu. Elle viendra tout droit au travers de chaque dénomination vers ce véritable sol fertile de la parole. Ce sol qui sert de lit, il le fera. Je ne sais pas comment il le fera, mais Dieu a ordonné cela pour être fait. Vous étiez la semence au commencement par votre pouvoir mariage. Maintenant, vous savez que c'est vrai. Juste comme je l'ai dit pour le petit aigle, quand il entendit la voix de l'époux, il est allé vers lui, vers la parole de Dieu, ouinte confirmée pour les derniers jours. Noé était la parole confirmée pour son temps. Croyez-vous cela? Bien, mais son message serait sans effet aujourd'hui. Moïse était la parole confirmée pour son temps, pour son âge. Croyez-vous cela? Eh bien, cela serait sans effet pour aujourd'hui. Jean était la parole confirmée pour son temps. Croyez-vous cela? Cela n'aurait pas eu d'effet dans les jours de Jésus. Jean était la parole confirmée. Certainement pas. La loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean. Depuis lors, c'est le royaume des cieux. Les apôtres, ceux qui ont exposé la Bible. Ici vient Luther avec la réformation. Son église n'aurait pas de succès aujourd'hui. Pas plus que Wesley, ni les pentecôtistes. Cela a marché dans leur jour. Mais aujourd'hui, c'est un autre jour. Celui-ci est l'ouverture des sept sceaux. Je sais que cela vous paraît étrange, mais Dieu l'a confirmé d'une manière si parfaite qu'il ne peut pas y avoir de questions à ce sujet. C'est vraiment parfait. Je ne répands pas cela pour l'assemblée locale ici. Je parle aux gens qui sont au travers de la nation. Vous voyez, faites ce que vous souhaitez faire. Maintenant, observez la parole loin de ce jour dont vous faites partie par prédestination. Vous saviez immédiatement, quand vous avez entendu cela, vous saviez instantanément que vous étiez un aigle. Vous avez aussi réalisé que dès le commencement, vous n'étiez pas un poulet dénominationnel. Qu'il y avait quelque chose de faux là-bas. Il y a quelque chose de faux, c'est vrai. Car vous savez que vous avez été piégé là-dedans au commencement. Lui, l'époux, a pris votre honte et l'a mise dans la mer de l'oubli par le lavage d'eau de la parole et le sang de vie. Et le sang de vie. C'est ce que dit la Bible. Votre premier mari, auquel vous étiez marié le monde, l'époux oint, lequel vous a préordonné, vous a lavé par le lavage dans d'eau de l'église. Cela ne vous semble-t-il pas correct, n'est-ce pas? Vous pourriez trouver cela dans l'almanach, mais pas dans la Bible de Dieu. Par le lavage d'eau de la parole, vous vous tenez debout, accompli, justifié, comme si vous ne l'aviez jamais fait au commencement. Ceci est mon message à l'église. Comme si nous allions partir dans les airs dans une minute. Vous êtes debout. Si vous vous tenez debout sur la parole de Dieu et avec la parole de Dieu, sur chaque amen, chaque iota, chaque titre, où vous tenez-vous debout, sur quoi tenez-vous debout, j'essaie de vous le dire. Éloignez-vous de cette balle et venez ici dans le blé où vous pouvez mûrir dans le soleil. J'entends la venue de la moissonneuse batteuse. Vous vous tenez debout, accompli, justifié, comme vous ne l'aviez jamais été au début. Alléluia. Parlez d'un remerciement, d'un message de remerciement. Je me sens réellement bien. Je suis plus reconnaissant pour cela que n'importe quoi d'autre que je connaisse.
Vous êtes la pure, la vertueuse épouse sans péché du Fils du Dieu vivant. Chaque homme et femme né de l'Esprit de Dieu, lavé dans le sang de Jésus-Christ et croyant chaque parole de Dieu, se tient debout comme s'il n'avait jamais péché. En premier lieu, vous êtes parfait par le sang de Jésus-Christ. Si j'étais supposé mourir ce matin et qu'un homme prenne ma place, je ne pourrais pas mourir pour ce péché. Quelqu'un a pris ma place et Jésus, la parole, a pris ma place. Il est devenu moi un pécheur afin que je puisse devenir lui, la parole. Amen. Laissez-moi me tenir fidèlement à elle, non à l'église, mais à la parole. Amen. Oh, cette union spirituelle de Christ dans son église, au moment où la chair devient parole et la parole devient chair, manifestée, confirmée, exactement comme la Bible a dit que cela arriverait en ce jour dans lequel nous vivons. Oui, cela arrive jour après jour. Pourquoi cela s'accumule-t-il si rapidement dans ces déserts? Ces choses prennent place. J'ai même de la peine à les assimiler. Nous sommes proches de la venue de Jésus pour être unis avec son Église, où la parole devient la parole. L'appel du Saint-Esprit cherchant les cœurs. Vous vous tenez debout, accompli, vous commencez. Pour commencer, vous n'avez jamais péché. Dieu ne le sait même pas. C'est dans la mer de l'oubli. Vous ne l'avez jamais fait. Vous étiez accusé de l'avoir fait par l'accusateur. Mais vraiment, depuis le début, vous étiez prêté à être un fils ou une fille de Dieu. Vous vous tenez debout ici, lavé, et votre vieux livre du divorce est mis de côté et vous êtes mort. Absolument hors de l'existence, même dans la pensée de Dieu. Vous êtes l'épouse de Christ, vertueuse, lavée dans le sang de Jésus-Christ. Précieuse, vertueuse, sans péché, fils de Dieu, se tenant debout avec une pure épouse, parole. Alléluia. Non altéré, qu'il a lavé par l'eau de son propre sang, qui est devenu chair et qui a manifesté qu'il pouvait vous prendre. Vous qui étiez prédestinés dans le sein du Père, avant le commencement, le même qu'il était. Il était ce grand attribut de Dieu, appelé amour. Qu'importe que vous êtes des serviteurs de Dieu. Qu'importe que Dieu veut que vous fassiez, quelle que soit votre place, Dieu a placé dans l'église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs. Il place les uns comme ceci, les autres comme cela. Il place cela par la vertu de sa, par sa propre prédestination. Depuis le commencement, vous étiez là. Votre premier mariage était annulé. A été annulé. Vous ne l'avez jamais fait en premier lieu. Parce qu'il y a seulement une chose qui pouvait le faire, et c'était Dieu descendant lui-même et prenant votre place dans la forme du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et vous lavant par l'eau, par le lavage d'eau de la parole. La parole, pas une dénomination. La parole vous a lavé. Mais si vous ne voulez pas venir tenir dans l'eau, si vous ne voulez pas vous tenir dans l'eau de la parole, comment serez-vous lavé? Vous êtes encore taché comme l'était Ève. Oh, cher agneau mourant, ton précieux sang ne perdra jamais sa puissance jusqu'à ce que toute l'église de Dieu rachetée soit sauvée pour ne plus jamais pécher. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité à l'égard de quoi? À l'égard de la parole. Incrédulité en Dieu, lequel est la parole pure, non altérée, non falsifiée. Oh, alléluia. Partant bientôt pour le ciel. Amen. Se tenant prêt. Pensez à cela. Votre vêtement lavé par l'eau de la parole ensanglantée. La parole devient sang. La parole saigna pour vous. Et vous êtes lavé dans la parole ensanglantée. La parole sanglante. La vie de Dieu dans la parole. Et la parole a saigné pour vous. Pour que vous puissiez être lavé de la saleté de ces prostituées. Et être nettoyé et sanctifié par le lavage d'eau de la parole. Qui fait que votre pensée, vos pensées et votre cœur restent en Dieu et en sa parole. Maintenant, comment savez-vous que c'est vrai? Quand Dieu descend, la confirme et la prouve. Alléluia. Vous dites, eh bien, je ne le crois pas de cette manière. Ils n'ont pas cru en la manière de Jésus, mais Dieu l'a prouvé. Ils n'ont pas cru en la manière de Noé. Ils n'ont pas cru en la manière de Moïse. Ils étaient d'accord d'accepter la parole de Balaam à sa place. Nous sommes tous les mêmes aussi, mettant-nous Aussi, mettons-nous ensemble. La Bible dit, séparez-vous vous-même de toute incrédulité. Alléluia. Nous sommes tous les mêmes. Aussi, mettons-nous ensemble. Maintenant, remarquez, vous n'êtes pas seulement cela, mais vous allez à un mariage dans le ciel. Alléluia. Et vous portez l'alliance du mariage, de la grâce imméritée, de la prédestination, une alliance de grâce du mariage que vous n'aviez pas mérité. Dieu l'a fait lui-même. Il vous connaissait avant la fondation du monde. Aussi, il a glissé l'alliance du mariage sur vous, là-bas. Mis votre nom dans le livre. Oh, quel remerciement. Alléluia. Louange à notre Dieu. Maintenant, en conclusion, je pourrais dire ceci. Nous savons tous que l'église moderne de Pentecôte, dans sa condition présente, toutes les dénominations ensemble, je les mets toutes dans le même paquet. Parce qu'elles le sont. Vous vous rappelez, il va lier d'abord les mauvaises herbes et les brûler. Il prend toute la paille et la brûle en premier. Il vient ensuite et ramasse son blé et le prend à la maison. Il s'assemble dans une botte, botte de méthodistes, baptistes, pentecôtistes, et vous tous au conseil économique et œcuménique. C'est vrai, ils sont tous consumés. Vous voyez, nous savons tous que l'église moderne dans sa condition présente et son état actuel n'est pas en condition de terminer le grand mandat que Dieu donne à l'église pour ce jour. Combien de pentecôtistes disent amen à cela? C'est vrai. Nous sommes unitaires, biunitaires, trinitaires. Nous sommes ceci et cela. Les autres font des histoires et se bagarrent. Un est ceci, un autre est cela. Un et chacun d'entre eux a peur de regarder au fond de la parole pour être testé, pour être examiné, pour venir à la lumière, pour qu'on voie que ses œuvres sont faites en Dieu ou pas. Ils savent. Vous le leur dites, ils disent, je n'y peux rien, je ne peux pas croire cela. Peu m'importe ce qu'il fait. Peu m'importe ce qu'il fait. Cela montre quelle maman et quel papa vous avez. Vous pouvez être un ancien ou quelque chose d'autre. Vous pouvez être ceci ou cela. Vous feriez mieux d'être un fils de Dieu. Maintenant, nous savons que l'Église, en aucun cas, ne pourrait porter le message du dernier jour dans sa condition présente. C'est seulement l'épouse qui le fera. Le pourrait-elle? Eh bien, ils ne peuvent même pas se mettre d'accord sur une ou deux paroles de la Bible. Comment allez-vous le faire? Ils ne peuvent pas le faire. Aussi, vous voyez, la dénomination est hors circuit. C'est vrai. Cela sera un peuple élu qui est élu pour cela. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Maintenant, notez. Et chacun de nous connaît que toute la rangée des dénominations, pentecôtistes et autres, tous sont morts. Ce message doit être porté par les chrétiens, par les véritables chrétiens, de la parole révélée, née de nouveau. Votre premier mari est mort, votre première nature est morte, votre vieille vie, votre vieille nature est morte. Vous savez qu'il est mort, qu'elle est morte. Dieu l'a laissé mourir, c'est fini. Toutes les choses scientifiques, intellectuelles, éducationnelles, les manières scientifiques de soi-disant école biblique, et toutes ces choses sont pourries et péries, ont péri. Qu'est-ce que cela a fait? Cela a séparé unitaire, cri ici, et tri-unitaire, là, et bi-unitaire, ici, et là, là-bas. Un si grand gâchis, et ils s'appellent eux-mêmes l'Église. Eh bien, je suis allé vers un jeune homme. Ils écoutent ici maintenant. Et une jeune femme, elle appartenait à une certaine église. Et elle a dit qu'ils étaient séparés. J'ai dit, que se passe-t-il? Eh bien, elle a dit, nous avons une foi différente. J'ai dit, oh, je suis désolé. Êtes-vous catholique? Elle a répondu, non. Elle m'a dit, à quelle église dénominationnelle elle appartenait? Une église pentecôtiste, je dis, et vous, qu'êtes-vous? Il était pentecôtiste aussi, mais d'une autre dénomination. Oh, vous savez que l'église catholique romaine a commencé comme les pentecôtistes? Combien d'entre vous savent que cela est vrai? Cela a pris 2000 ans pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Elle ne prend simplement plus rien des écritures, rien. Dans 20 ans, les pentecôtistes seront pires
pire que ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils continuent d'aller de la même manière que maintenant. C'est certain. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Regardez, qui sont leurs papas et leurs mamans? Ils laissent leurs femmes couper leurs cheveux. Ils peuvent faire, elles peuvent faire à peu près tout ce qu'elles veulent, aussi longtemps qu'elles appartiennent à l'église. C'est tout ce qui est nécessaire. Oh, pas de miracle, pas de miracle, pas que la damnation de Dieu s'accumule. Dieu le met droit devant vos yeux. Dieu la met droit devant vos yeux et vous fermez vos yeux et négligez de la regarder. Fermant vos entrailles de compassion quand vous voyez la véritable parole de Dieu confirmée, éprouvée, être vraie dans cette eau, dans cette eau, et dont le témoignage est vu au travers des nations et partout ailleurs par de grands signes et des miracles qu'il a promis qu'il ferait. Alors, vous vous taisez et dites, je ne sais pas, je n'y peux rien, je ne crois pas. Oh mort, ils ne le savent pas. Péché et transgression, vous êtes mort. Nous savons tous que l'Église dans cette condition ne pouvait pas terminer ce dernier jour. Nous savons que l'Église dans cette condition ne pouvait pas terminer ce dernier jour. Comment pourrait-elle apporter Malachika? Comment pourrait-elle le faire? Il ne croit même pas dans une telle chose. Comment pourrait-elle croire à amener Luc 17:30? Comment pourrait-elle amener toutes les autres écritures qui sont promises pour ces derniers jours? Elle ne pourrait pas le faire parce qu'elle le tenait. Comme ce fut dans les jours de Lot. Ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. Regardez dans quelles conditions était Sodome dans son jour. Regardez à la condition de l'Église d'aujourd'hui. Regardez ce qui est arrivé à Abraham, l'élu. Regardez ce qui est arrivé à Abraham et lui. Regardez ce qui est arrivé à Lot et à ceux de Sodome. Regardez Billy Graham et Oral Roberts et à ceux qui sont là-bas parmi les sept nations. Regardez à l'église élu d'Abraham qui s'est retiré. Regardez quelle sorte de signe était ce Jésus lui-même. Le Dieu incarné se tenant ici dans la chair humaine. Vous dites, c'était un ange. La Bible dit que c'était Dieu. Seigneur Dieu Elohim. Se tenant ici dans une chair humaine, montrant qu'il oindrait son église dans les derniers jours, que cela serait Dieu travaillant à nouveau de la même manière dans la chair humaine, comment ce fut dans les jours de Sodome, ainsi ce sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme, de la même manière et la même chose. Vous pouvez le voir juste là. Dans les Écritures, vous lisez et cherchez dans les Écritures parce que vous croyez qu'en elles, vous avez la vie éternelle. Et ce sont elles qui attestent cela. Ainsi, nous savons qu'ils sont morts. Dieu les a laissés mourir dans leur propre programme égoïste, scientifique, éducationnel. Tous les pentecôtistes avaient l'habitude de vous parler d'envoyer un enfant à l'école biblique. Autrefois, quand frère Ruth et les autres étaient ici, ils vous auraient jeté dehors de l'église. Oh, mais maintenant, c'est la plus grande chose de dire que mon fils est à l'école biblique. Il creuse sa tombe. Ils sont en train de creuser sa tombe. Aussi, maintenant, vous pensez qu'il pourrait l'accepter aujourd'hui. Vous pensez que j'essaie de soutenir l'ignorance. Je ne le fais pas. Je vous dis qu'il y a une différence entre cette âge intellectuelle dans laquelle nous vivons, où l'Église a été fécondée par la science et ses gens qui comprennent soi-disant tout et n'importe quoi. Vous ne pouvez pas arriver à comprendre Dieu. Ces prêtres s'étaient représentés Dieu si parfaitement qu'ils savaient comment le Messie devait venir. Mais il est venu si différemment de ce qu'ils avaient pensé. Ce n'était pas scientifique. Comme cet homme pouvait-il, étant un enfant illégitime, dans quelle école est-il allé? D'où venait son éducation? D'où tenait-il son savoir? Pourquoi essaies-tu de nous enseigner? Tu es né de la fornication. Oh, pour l'amour de Dieu. Regardez ces gens. Vous voyez, la même chose se répète à nouveau. Vous voyez, elle se répète à nouveau. Tout dans leur science religieuse, en accord avec ce que leurs écoles bibliques a dit. C'est comme cela qu'ils le veulent. C'est ainsi que cela doit être en ou ne pas être. Dieu les ridiculise chaque fois. Cela se passe chaque fois différemment. Autant de Noé, autant de Moïse, autant de Christ, autant de Jean, autant des disciples, autant de Wesley, autant de Luther, autant de la Pentecôte. Et cela se répète ainsi. Le modèle ne change pas. Cela vient toujours de la même façon. Ce sont seulement des réformateurs au travers des six âges.
jusqu'à au septième dans l'Apocalypse chapitre 10, qui dit que dans cette heure, cela changera. Et cela change. Maintenant, nous terminons en disant ceci. Terminer le grand mandat. Comment pourrait-il terminer le grand mandat? Nous savons qu'ils sont morts. Dieu les a scellés, mourir dans cet âge scientifique. Ainsi, que pouvait-il faire? Ouvrir les sept mystères scellés à l'épouse non dénominationnelle. Comme une dénomination peut-elle accepter cette chose, la semence du serpent et toutes ces autres choses, la plénitude de sept mystères, quand c'est absolument contraire à ce qu'ils ont été enseignés, parce qu'ils gardent la vieille école de l'école biblique. Ils ne peuvent pas accepter alors toutes ces choses que Dieu a révélées. Et les sept sceaux que Dieu, quand cela a été ouvert sur la montagne, Dieu, que je meurs ici à cet instant, à ce pupitre, si ce n'était pas la vérité. Je vous ai prédit un an et demi avant que cela se passe, ce qui arriverait là-bas, quand il m'a dit d'aller en Jérusalem, dans le désert. Et il y a un homme assis juste ici ce soir, qui se tenait présent là-bas quand les sept anges sont descendus. Même les magazines, le Live Magazine, a fait un article là-dessus. C'était exactement là-bas, dans l'observatoire. Et maintenant, ils ne savent même pas du tout de quoi il s'agit. Et tout a été dit, même la destruction de la Californie, qui se prépare maintenant, et toutes ces autres choses. Je leur ai dit dans combien de jours arriverait ce grand tremblement de terre en Alaska, et que cela serait le commencement du signe du temps. Et ce qui arriverait. Et c'est mot à mot qu'il a dit. Cela n'a jamais failli une seule fois. Vous ne l'avez jamais vu faillir. Et elle ne peut pas faillir. Parce qu'elle est la parole de Dieu. Et les cieux et la terre passeront. Mais elle ne peut pas manquer. Dieu savait ouvrir cette source. Dieu devait ouvrir cette source. Oui, pas dans une dénomination. J'ai toujours été contre cela. Mais en dehors de la dénomination, il peut prendre une épouse. Pas une épouse dénominationnelle. Il ne pourrait pas le faire. C'est contre sa parole, sa propre parole. Il a ouvert ses sept mystères là-bas. Expose et amène ces choses qui ont été cachées depuis la fondation du monde. Pour qu'elles puissent être révélées dans ces derniers jours. Au Fils de Dieu. Il amène cela maintenant devant les gens afin qu'ils puissent les voir. Là, vous voyez, à cette épouse non dénominationnelle. Là. Vous voyez, c'est à cette épouse non dénominationnelle que cela se passe. Oh, frère, les voilà, vos deux livres. Un d'entre eux est le livre de vie de l'agneau. Votre nom est prédestiné à être là-dedans. Il ne peut pas partir parce que vous ne pouvez plus jamais enlever cela. Parce que cela avait été préordonné à être là-dedans. Mais vous pouvez enlever en tout temps du livre habituel de vie. Vous pouvez l'enlever en tout temps du livre habituel de vie. Si vous ne vous répentez pas, il est enlevé de toute façon. Parce que vous allez passer en jugement. L'épouse ne passe même pas en jugement. Elle s'en va dans l'enlèvement. Comme je dis cela pour terminer, je vois qu'il se fait tard. C'est presque 9h30. Nous sortirons d'ici à 9h30. Dieu voulant, maintenant soyez réellement respectueux. Écoutez, une fois, disant cela maintenant. Cela va au travers de la nation. Maintenant, il est 11h25 à New York, en haut vers Philadelphie et aux alentours là-bas, en bas vers Mexico, en haut au Canada, d'est en ouest, les chers saints assis là-bas écoutent maintenant dans les églises. À 200 000 d'ici, n'importe où, à l'intérieur de presque tout le continent nord-américain, des gens écoutent maintenant ce message. Des milliers de fois mille écoutes. Cela est mon message à vous, Église. Vous qui êtes une union spirituelle par la parole, qui êtes mort à ce vieux mari, vous, à ce vieux mari, à cette vieille nature, à votre nature, vous êtes né de nouveau. N'essayez pas de le déterrer, hein. Il est mort. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, ce petit germe qui est prédestiné en vous, c'est la parole venant sur la parole, sur la parole, jusqu'à ce qu'elle parvienne à la pleine stature de Christ. C'est vrai, ainsi il peut venir et prendre son épouse. Préparez-vous.
Maintenant nous sommes juste prêts pour une chose, c'est la venue du Seigneur. Votre nom est là-bas dans le livre de vie, Et ça c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Oh frère, les voilà vos deux livres. Un d'entre eux est le livre de vie de l'agneau immolé avant la fin du monde. Et ça c'est quelque chose de merveilleux. Est-ce que vous voyez ces deux livres? L'un c'est le livre donc de l'agneau et l'autre c'est seulement le livre de la vie. Les gens sont déterminés, sont prédestinés, sont élus. Ça ne peut plus être enlevé parce que vous êtes déterminés, élus à être dans ce livre de l'agneau. Mais si vous êtes seulement dans le livre de vie, votre nom peut être ôté du livre de la vie. Car l'épouse ne va pas apparaître devant le jugement. Non, elle sera enlevée. Le livre de vie est la parole de Dieu parce que la parole est Dieu. Et Dieu est la seule chose qui soit vie. Aussi, votre nom était représenté dans la Bible avant que la Bible ne devienne parole. Et si vous êtes là pour faire cela, cela ne confirme-t-il pas cette parole? L'Église ne se justifie-t-elle pas elle-même? Est-ce que Malachie 4 et toutes ces choses ne se confirment-elles pas parfaitement et montrent que cela est ce qu'elle est? Quand Jésus est venu, il a dit, je ne fais pas les œuvres qui ont été, si je ne fais pas les œuvres qui ont été promises que je fasse, ne croyez pas en moi. À quel groupe s'est-il joint? Il a dit, vous êtes tous de votre père le diable et vous faites ces œuvres. Vous voyez, nous sommes dans les derniers jours, Église. Cela est mon message de remerciement pour vous. Avant de terminer, une fois, j'étais au Glacier National Park. Nous avons entendu toute la journée qu'il avait un glacier de feu qui devait tomber à la nuit. Aussi, les gens étaient occupés toute la journée à préparer cette chose parce qu'elle allait verser ce feu cette nuit. Ils ont versé un liquide. Le feu tombait comme un grand glacier d'eau. Cela ressemblait presque à un arc-en-ciel. Quand cela est sorti de ce feu qui descendait là, le glacier, ma femme, les enfants et moi avons sillonné le parc pendant la journée. Nous voulions rester pour voir ce spectacle de feu. Aussi, il nous avait été promis que nous le verrions et que nous en serions à nouveau les témoins. Ils ont dit qu'ils ne le faisaient jamais pendant la saison d'été, etc. J'ai dit, bien, le verrons-nous? Bon, ils ont dit, nous le promettons pour ce soir. Cela nous a été promis. Ils ont dit, ils sont en train de le préparer maintenant. Après tout, j'ai été préparé pour l'enlèvement, vous voyez? C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Tout est en train de se préparer pour l'enlèvement. Une église enlevée pour l'amour de son nom, prenant son épouse de parmi le monde, de cette dénomination de tout le monde, de la souillure et des choses du monde. Chacun, l'enlèvement avait été préparé. Chacun se tenait dehors et disait, maintenant continuez juste à regarder au sommet de la montagne, là-bas, là-haut. C'est de cette manière que cela est toujours venu. C'est de cette manière que cela viendrait cette fois. C'est de cette manière que cela est toujours passé. Pas à travers une dénomination. Dieu n'a jamais utilisé une dénomination. Jamais. Le réformateur va de l'avant. Il reçoit la parole du Seigneur et alors il meurt. De cela, ils font une dénomination. C'est ce qu'ont fait les pentecôtistes et tous les autres. Quand quelque chose se passe de nouveau, et tout cela, c'est de cette manière que chaque chose sort. Une nouvelle parole est ajoutée, alors ils établissent une église de là. Ils font une dénomination et se séparent eux-mêmes. Cela devait être de cette manière. Vous ne pouvez pas battre la nature. La nature suit la même routine tout le temps. Tige, feuilles, glands, balles et ensuite le blé. Maintenant, remarquez, tout était prêt. Chaque chose avait été enflammée et préparée. Et chacun se tenait debout. J'avais ma tête levée, mon bras autour de ma femme. Nous regardions. Les enfants se tenaient là. Tous, nous regardions en haut, comme cela. C'était quelque chose parce que nous l'attendions. Cela nous avait été promis. Amen.
La parole promet ceci. Voici, je vous envoie Élie le prophète avant que vienne le grand et terrible jour de l'éternel. Et il fera retourner le cœur des fils vers le Père. Cela se passera dans les derniers jours, frères et sœurs. Je déverserai mon esprit d'en haut, dit le Seigneur. La première et la dernière pluie viendront ensemble dans les derniers jours. Toutes ces promesses ont été données au travers des Écritures. Nous regardons en haut, observant la véritable pousse au travers de la nation. En cette heure, regardant en haut. Église, il va venir en ces jours. Aussi sûrement qu'il est venu la première fois, il vient encore. Préparez chaque chose. Séparez-vous de la balle. Étendez-vous au soleil. Continuez à regarder en haut. Soyez dans l'attente. Tout en même temps, nous avons entendu quelque chose venant du sommet de la colline, une voix disant au travers du haut-parleur, « Toutes choses sont prêtes. » Alors cet homme qui se tenait droit à côté de moi dit, « Laissez le feu tomber. » Il vient ici se déverser en bas, à travers cette montagne, un glacier de feu et d'éclats de flammes léchant la montagne. Voilà une vision à conserver. Frère, préparons toutes choses, car un de ces jours, le feu va tomber. Nous nous monterons. Maintenant, préparons-nous pour le temps du feu qui tombe. Nous sommes dans les derniers jours. Nous avons tout cela. Et nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. La chose à faire est de vous séparer vous-même de tout péché. Séparez-vous vous-même de chaque chose qui appartient au monde. N'aimez pas le monde ou les choses du monde. Ne laissez aucun homme vous tromper avec une doctrine. Vous restez exactement droit dans la promesse de Dieu, la parole de Dieu. Et cette parole, si elle est la parole pour cet âge, Dieu la confirme aussi. En tout ce qu'il a porté, qu'il la croit et qu'il la garde. S'il ne la confirme pas, ce n'est pas la parole de ce jour. La parole qui est tombée au jour de Pentecôte n'agira pas ce jour. La parole qui est tombée au jour de Pentecôte n'agira pas ce jour. Non, certainement, c'était pour la Pentecôte. Celle-ci est pour l'épouse aujourd'hui. Le retour à la maison de l'épouse. Nous avons quelque chose de différent. Les pentecôtistes ont représenté à nouveau cela. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Pas plus que la parole de Noé aurait agi au temps de Moïse. Et la loi de Moïse n'aurait pas davantage agi au temps de Paul. Il essaya de leur dire, vous êtes morts à cela et vous ne pouvez pas avoir cela. Église, vous à qui je m'adresse, ce soir, au travers de la nation, si vous vous séparez pour vous-même de la dénomination, de toute la saleté de ces choses, de ce monde, de toutes ces choses, de ces credos fabriqués par l'homme, de ces doctrines, de cet ordre, de toutes ces choses, séparez-vous vous-même et regardez en haut. Soyez prêts, le feu va tomber. Et de ces jours, oui, un de ces jours, Dieu va le laisser venir. En voilà un exemple à considérer. Serez-vous prêts lorsqu'il viendra? Serez-vous prêts à monter avec lui lorsqu'il viendra? L'enlèvement secret de l'épouse surnaturelle de mortelle, elle deviendra immortelle. Elle sera changée, transformée, transfigurée en un instant, en un clin d'œil. Nous qui demeurons vivants ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. L'autre jour, lors du jour de l'armistice, je me tenais ici en bas. En Tucson, mon petit garçon voulait voir la parade. J'étais en train d'étudier, je n'avais pas le temps de le faire. J'avais beaucoup de téléphones de personnes malades et autres. Aussi, il a dit, papa, ils ne veulent pas me prendre. Il a dit, amène-moi. Je lui ai dit, d'accord. Frère Simpson, je crois qu'il a dit qu'il est ici. Et son petit garçon voulait y aller. Aussi, je l'ai poussé dans la voiture et je suis descendu. Je suis resté là-bas, dans l'angle, et j'ai regardé. Après un moment, j'ai entendu au loin un bruit sourd qui venait. Boum, boum, boum. Des roulements de tambour. Je me tenais debout là-bas et je pensais. Eh bien, ces petits compagnons qui ont lu tous ces livres à propos de l'armée, ils vont vraiment aimer cela. J'ai remarqué le vieux tank de la Première Guerre mondiale qui arrivait en premier. Là, ils arrivent là ils arrivent, n'est-ce pas, ces engins de rien. Le suivant était le gros nouveau tank de la dernière guerre mondiale, le gros tank Sturmman avec le canon braqué. Ensuite, le suivant est venu, puis le suivant, et après un moment, les mers à l'étoile d'or. Et après un moment, sont venus les 12 vétérans, les seuls survivants de tout l'état d'Orizana, de la première guerre mondiale. 12 vétérans. Après cela, un groupe sur un char, le soldat inconnu, avec la petite croix blanche. Là-bas se tenait un matelot, un marine, et un soldat montait la garde. Le char se partageait. D'un côté, une vieille maman aux cheveux gris, assise avec une étoile d'or épinglée sur elle. Une charmante petite femme qui pleurait car son mari était mort. De l'autre côté, un petit garçon en guenille. La tête tournée sur le côté, son père avait été tué. Alors, derrière cela, d'autres sont venus, encore, et enfin, la nouvelle armée. Je me tenais là, quel spectacle, mais combien triste. J'ai pensé, oh Dieu, un de ces jours, je vais voir un autre spectacle. Il y a un jour de résurrection qui se prépare, où le premier sera le dernier, et ceux qui sont les derniers seront les premiers. Les anciens prophètes viendront en premier, et ils verront cette procession montant dans les airs. Et nous qui sommes demeurés vivants, nous ne devancerons aucunement ceux qui sont endormis, car la trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ se lèveront en premier, et nous les rejoindrons directement. Alléluia! Tous ceux de l'âge de Luther, de Wesley, des méthodistes, des presbytériens, et jusqu'à ceux du dernier âge, qui ont reçu la parole de leur âge, Dieu vous bénisse. Préparez-vous, le feu va tomber. Oh, béni soient ceux qui reçoivent la parole de leur âge, demeurant en elle, la gardant, vivant en elle. Inclinons nos têtes juste pour un moment. Je me demande si dans cette audience visible ce soir, alors que je vous ai retenu ici jusqu'à 9h30, s'il y a ici un ou une douzaine ou plus qui disent, frère Branham, j'ai honte de moi-même, de la manière dont j'ai vécu. J'ai pourvu beaucoup aux besoins de la dénomination d'homme. Je sais que je ne suis pas en accord avec la parole de Dieu. Je vous demande juste de prier pour moi. Frère Branham, levez les mains. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Regardez simplement là-haut, dans les balcons et autour. Partout, les mains se lèvent. Dieu vous bénisse. Maintenant, ne soyez pas honteux. Là-bas, à travers de la nation, de New York à la Californie, du Canada à Mexico, vous les gens qui sont rassemblés dans cette église ou ces petits groupes fidèles qui ont cru ce message de tout leur cœur, ils sont sortis des grandes tribulations, sortis de la dénomination, ils sont des germes de vie. Est-ce que vous ressentez une urgence ce soir comme ce petit aigle, vous qui avez entendu quelque chose qui est un petit différent de ce que vous avez entendu jusqu'alors? Mais maintenant, dans votre cœur, vous savez que c'est la vérité. Vous, ici, il y a un pasteur qui se tient debout, ici, quelque part. Vous avez votre main levée. Je vais prier pour vous. Amis, ces choses n'ont pas été faites dans un coin. Regardez, vous savez que c'est la vérité. Rappelez-vous, étroite est la porte et resserré le chemin. Mais il y en aura peu qui le trouveront. Amis, n'allez pas avec cette foule mauvaise, mouvante là-bas, avec les habits serrés et moulants. Cette église de l'âge de l'Odyssée, elle peut sauter en haut, en bas et danser au son de la musique. Elle est tiède. Il n'a pas dit froide comme la glace. Il a dit qu'elle est tiède. Cela est le pentecôtisme. Et elle ne sait pas qu'elle est misérable, nue et aveugle. Aveugle par rapport à quoi? À la parole, à la manifestation de la parole, parce qu'elle ne vient jamais au travers de leur organisation. Ils ne peuvent pas la recevoir. Ils ne peuvent pas la recevoir, non. Et vous, les ministres de l'évangile, là-bas à Tucson, ce soir, je ne vous tiens pas responsable de cela. Dieu le fait. J'étais là-bas pendant 3 ans. Je vous ai dit que je ne voulais pas commencer une église. Je ne l'ai pas fait. Frère Puri Green l'a commencé. J'étais 3 ans là-bas et pas une seule fois vous ne m'avez invité à votre pupitre, n'est-ce pas? J'étais assis à Tucson pendant près de 3 ans. Dieu me reprendra de ce désert un de ces jours. Ce message doit vivre.
J'ai essayé, ce message doit vivre, il doit vivre. J'ai essayé de mon mieux de vous le faire comprendre. Je connais la raison pour laquelle vous l'avez fait. Vous connaissez la raison pour laquelle vous l'avez fait. Votre dénomination vous jetterait dehors si vous m'aviez invité à prêcher sur votre pulpit. Et vous savez à combien d'entre vous, et vous savez à combien d'entre vous j'ai parlé là-bas au restaurant Fios. Et vous savez que c'est la vérité. Honte à vous. Venez hors de cela. Sortez de là. Frère, s'il y a de la vie en vous, vous serez comme ce petit aigle dont j'ai parlé. Vous entendez la parole de Dieu? Rappelez-vous, vous allez entendre ceci pour la dernière fois un de ces jours. Nous sommes vraiment proches maintenant. Ne voulez-vous pas venir ce soir? Cher Dieu, nous sommes assis solennellement. C'est vraiment un jour de reconnaissance, de remerciement. Je suis reconnaissant, Seigneur, de vivre en ce jour. C'est le plus grand jour. Oh, Paul, l'apôtre, brûlait de voir ce jour. Ce grand homme des temps passés brûlait de voir ce jour. Les prophètes soupiraient de le voir. Ils cherchaient ce jour. Abraham attendait ce jour car il cherchait une cité dont le créateur et le constructeur était Dieu. Elle est juste au-dessus de nous ce soir. Jean avait vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel, porter le témoignage et il savait que c'était le Fils de Dieu. Pensez-y maintenant, il choisit son épouse. Cher Dieu, parle à leur cœur partout à travers les nations. Tu es le seul qui peut changer leur cœur. Si ce n'était pas la semence placée dans leur cœur dès le commencement, ils ne la verraient jamais. Seigneur, l'aveugle conduira l'aveugle et ils tomberont ensemble dans le fossé parce que ta parole nous dit que cela sera ainsi. Maintenant, Père, puissions-nous voir des douzaines et des douzaines de petites assemblées au travers de la nation, autour du monde, en Afrique, au travers de l'Afrique du Sud, du Mozambique, partout à travers la nation, écoutant les prédications de ce bande. Ainsi, ces bandes iront vers quelques 20 nations différentes. Ils commencent à le voir de sorte des centaines et des centaines d'entre eux, des nations. Le Seigneur n'en prendra pas beaucoup. Et quand le dernier membre est reçu dans le corps, Christ viendra. Oui, Seigneur Dieu, je demande à l'épouse ce soir, ceux dont je sens qu'ils sont sortis et entendent, puissent-ils se séparer eux-mêmes de toutes choses du monde? Ils doivent se tenir dans la présence de la chaude lumière, du soleil, du Fils de Dieu. Mais pour pouvoir le faire, ils doivent sortir de l'esprit de ce monde et se baigner dans ta parole et dans ton amour. Accorde-le, ô Dieu. Pour ces gens ici visibles qui lèvent leurs mains ce soir, des douzaines d'entre eux au travers de ces grands tabernacles, je prie Dieu que la vie nouvelle vienne sur eux. Viennent à eux. Je prie pour ceux au travers de la nation et même autour du monde où cette cassette est passée, qu'ils puissent eux aussi recevoir ce message de remerciement et qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire par les indications et les choses qui ont été semées. Je te prie, Père, accorde-le. Bénis-les. Ils sont à toi. Je sais que c'est coutumier maintenant, Père, que nous demandions aux gens de venir à l'hôtel. Je te prie, cher Dieu, que dans chaque mission, partout ailleurs et ensuite à travers le monde, qu'ils viennent à l'hôtel. Le noir, le blanc, le jaune, le brun, quel qu'il soit, le riche, le pauvre, l'indifférent, les mendiants, l'indifférent, les mendiants et de quelque dénomination qu'ils soient, les dénominationnels, ceux qui demeurent centrés sur leur propre philosophie et sur eux-mêmes et sur leur doctrine et leurs opinions. Oh Dieu, nus, misérables, brisés, aveugles, et ne le sachent même pas. Ils sont nus, misérables, aveugles, brisés et ne le savent même pas. Tu as dit qu'il en sera ainsi, et c'est ainsi. Aussi je prie, Père, que tu appelles chaque semence ce soir et partout au travers du monde, où cette parole tombera, puisse-t-elle attraper ce petit aigle qui connaît la voix de son Seigneur. Accorde le Seigneur, je te le confie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, avec vos têtes inclinées, ici dans l'audience visible, quelques-uns qui n'ont pas été sauvés, ne voudraient-ils pas même donner leur cœur à Dieu? Ne pensez-vous pas que vous devriez être reconnaissant pour ce que Jésus a fait pour vous? Ne devriez-vous pas penser que vous êtes un pécheur, que vous êtes étranger à Dieu et que quelque chose maintenant frappe dans votre cœur? Comment savez-vous que vous n'êtes pas un de ces petits aigles?
Vous êtes misérable et resterez misérable jusqu'à ce que vous rendiez, vous rendiez à cette voie. Jusqu'à ce que vous vous rendiez à cette voie. Pourquoi ne pas faire cela ici? Un des petits grands remerciements que vous n'ayez jamais eu en revenant Jésus comme, en recevant Jésus comme votre sauveur. Pourquoi ne pas faire de celui-ci un des plus grands remerciements que vous n'avez jamais eu et recevoir Jésus comme votre sauveur? Voulez-vous venir ici en haut et vous tenir sur l'autel? Je prierai avec vous si vous venez. N'importe quel pécheur, homme ou femme, garçon ou fille, membre d'église ou pas, être membre d'une église ne fait pas de vous un chrétien. L'autel est ouvert. Voulez-vous venir? N'importe quel pécheur qui voudrait recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Quelques-uns d'entre vous, des dénominations, ne voudraient-ils pas cesser de se nourrir de cette nourriture de poulet? Cessez de dire que vous appartenez à ceci ou à cela et que c'est en ordre. Vous voulez vraiment savoir ce qu'est la vérité, le véritable baptême de cet esprit? Venez et trouvez. L'autel est ouvert. Nous sommes prêts. Venez. Venez simplement en haut. Quittez votre siège. Venez. Et agenouillez-vous à l'autel. Comme ce frère qui vient de venir. Remerciement. Oh Dieu, je te suis tellement reconnaissant de savoir qu'il y eut quelque chose tout au long de ma vie. Seigneur, je n'ai jamais été satisfait. J'ai essayé, j'ai pensé que je ferai cela l'année prochaine, la semaine prochaine, je le ferai la prochaine fois que j'entendrai l'appel de l'autel, je le ferai un jour, je l'ai remis à plus tard et remis à plus tard. Mais Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose de faux avec moi. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de différent. Et maintenant Seigneur, ce soir je suis reconnaissant parce que la préparation faite par le Fils de Dieu emporte mes péchés. La préparation faite par le Fils de Dieu emporte mes péchés. En réalité, mon incrédulité, loin de moi, je viens ce soir et m'agenouille et accepte la grande bénédiction de remerciement que Jésus-Christ a faite pour moi lorsqu'il est mort à Golgotha, au calvaire. Voulez-vous venir? Maintenant, il y a des gens agenouillés autour de l'autel. Pourquoi ne vous levez-vous pas et ne venez-vous pas ici? Vous avez voulu le faire. Vous avez essayé, n'est-ce pas? Pensez juste à notre frère, Lion Palmer, notre bon et précieux frère. Il était assis dans la cour, d'après ce que j'ai compris, regardant sa petite fille qui jouait au croquet ou à quelque chose d'autre. Et il tomba de sa chaise et mourut avant même qu'il puisse faire un mouvement. Nous ne savons pas quand est-ce que nous devrions aller. Vous ne savez pas, n'est-ce pas, à quelle heure vous en irez d'ici. Vous ne savez simplement pas à quelle heure vous partirez. C'est peut-être encore ce soir aussi. Pourquoi ne pas venir et régler cela maintenant avec Dieu? Vous tous, ne sentez-vous pas quelque chose qui vous tire par la manche? Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui devraient être ici à l'hôtel. Il y a seulement 6 ou 7 personnes ici. Ce ne sont pas tous celles qui sont assises dans ce lieu. Maintenant, si vous me croyez et regardez ici aux choses qui se passent sur la plateforme, vous me croyez maintenant. Un jour, ma voix sera rendue silencieuse et vous ne l'entendrez plus jamais. Vous pourriez regretter de ne pas être venu. Vous dites, mes frères Branham, j'ai été membre d'une église. Ce que vous avez été ne fait aucune différence. Nicodème avait aussi été un membre d'église. Ainsi l'avait été Jean, Pierre, Jacques, Paul. Tout le reste d'entre eux avait été membre d'une église. Paul était membre d'une église jusqu'à ce que quelque chose arrive une nuit. Où était-ce un jour? Et il est venu. Il a été changé d'un membre d'église à un fils de Dieu. Ne voulez-vous pas venir? Ne voulez-vous pas venir? Oh, il était formé, il était intellectuel. Il savait qu'il avait été formé dans l'une des plus grandes écoles de formation. Gamaliel était l'un des docteurs les plus qualifiés qu'il y avait dans le pays. Mais il savait qu'il avait besoin de quelque chose d'autre. Ne voulez-vous pas venir? Ne voulez-vous pas venir? Je vous le demande une fois de plus, ici ou dans la nation, je vous le demande. qui que vous soyez et quelle que soit l'assemblée où vous trouviez, où vous vous trouviez à cette heure du remerciement, rappelez-vous que je suis enregistré. Rappelez-vous que je suis enregistré ici, pas uniquement ici, mais aussi au ciel. Vous savez qu'il est scientifiquement prouvé que chaque mouvement que vous faites est enregistré. Les scientifiques le prouvent. Rappelez-vous, la télévision le prouve. La télévision ne fabrique pas l'image. Vous êtes l'image. Elle transmet juste cela. Ce que vous faites au travers du canal, vous êtes là-bas de toute façon. Voyez, quand vous bougez un doigt, ce mouvement fait le tour de la terre. Chaque fois que vous portez une robe, votre allure fait le tour du monde. C'est enregistré. Chaque pensée qui traverse votre esprit est enregistrée. Et un jour, l'enregistrement va s'arrêter de jouer. Il va être mis dans l'album et ensuite, il reviendra au jour du jugement. Même chaque pensée reviendra au jour du jugement. Oui, vous vous tiendrez là-bas avec vos cheveux coupés, clamant être chrétien, pensant être chrétien, disant être chrétien. Vous vous tiendrez là-bas avec vos pensées dans votre esprit, contre la parole, droit dans votre esprit. Vous ne pouvez pas le cacher. Rappelez-vous, la télévision, la science même sait que cela est vrai. Vous vous tenez juste là, sachant que vous devriez être ici. Rappelez-vous qu'au moment où ceci est enregistré, qu'au moment où ceci est enregistré, au jour du jugement, cette même pensée reviendra à nouveau dans votre esprit. Cela sera directement dans l'enregistrement. Le monde entier le verra passer parce que le monde et tous les anges là-bas vous regarderont au jour du jugement. Oui, si vous êtes honteux de voir de moi ici, quand votre image est en train d'être faite maintenant, je serai honteux de vous car j'ai oint ma parole que je vous ai envoyée et vous ne voulez pas la croire. Vous vous êtes caché vous-même derrière quelque chose. Oh, cela semble assez bon, n'est-ce pas? J'ai fait ceci, j'ai dansé dans l'esprit, j'ai parlé en langue. Ainsi font les païens, n'est-ce pas? J'ai crié, ainsi font les païens. Alors, comment pouvez-vous tourner le dos à la parole? Pourquoi ne pas venir à lui maintenant? Pourquoi ne pas venir à lui maintenant? Pourquoi attendez-vous, chers frères? Oh, pourquoi attendez-vous aussi longtemps? Jésus attend de vous donner une place dans sa sainte maison. Mais vous êtes un des membres de son corps. Pourquoi pas? Oh, viens, petit aigle. Pourquoi ne pas venir? Seigneur, je suis reconnaissant. Je suis très reconnaissant. Pourquoi pas, oh bien, pourquoi ne pas venir, Seigneur, je suis reconnaissant. Vous petit aigle, pourquoi ne pas venir, Seigneur, je suis reconnaissant, je suis très reconnaissant. À toi les remerciements, Seigneur, pas pour cette nourriture naturelle maintenant, mais Seigneur, je suis reconnaissant pour cette nourriture spirituelle de la fin des temps, Seigneur, la nourriture spirituelle des sept eaux qui avaient été promis. D'être ouvert, vous dites que cela sera quelque chose de différent. Non, non, vous ne pouvez pas ajouter un mot ou en retrancher. C'est déjà là-dedans. C'est juste caché, c'est scellé. Combien d'entre vous comprennent cela? Dites Amen. Voyez, vous dites bien, c'est un mystère qui doit être révélé. Non, non, c'est déjà écrit. Vous ne pouvez pas laisser ajouter ou lui retrancher un mot. Vous voyez, c'est déjà à l'intérieur. Cela doit juste être révélé dans les derniers jours. Ne voulez-vous pas venir? Venez maintenant, amis. Si vous ne pouvez pas comprendre, venez agenouillez-vous et parlez-lui de cela. Si je ne peux pas vous éclairer, il le fera, car il est celui qui dissipe tous les doutes dans son trône saint. Pourquoi pas? Ne voulez-vous pas venir? Pourquoi pas? Venez. Rappelez-vous, il y a un enregistrement de cela. Pas seulement sur cette bande, mais sur le grand enregistrement de Dieu. Pour chacun d'entre vous, chaque mouvement, chaque pensée, voulez-vous incliner votre tête, incliner votre cœur, n'importe quelle pensée qui traverse votre esprit, rappelez-vous, est enregistré juste maintenant dans la gloire. Et l'enregistrement sera passé au jour du jugement. Quelle est votre décision?
Oh, combien vous voudriez changer en ce jour. Je vais juste attendre parce qu'il y en a beaucoup qui viennent autour de l'hôtel maintenant. Voyez, peut-être si j'attends un peu plus longtemps, il peut y avoir un autre dehors là-bas. Cela peut être à New York, cela peut être quelque part en Philadelphie, là-bas en Californie, ou en Arizona. Quelque part, il peut y en avoir un autre qui vienne, pasteur, où que vous soyez. N'arrêtez pas l'hôtel, l'appel de l'hôtel maintenant. Vous pourriez peut-être ne jamais voir un autre message de remerciement. Celui-ci pourrait être le dernier et les enregistrements seraient effectués ce soir. Pour la dernière fois, la bande stoppera un de ces jours. L'enregistrement sera pris dans l'album de Dieu. Vous voyez, et les pensées que vous avez maintenant défileront. Ne dites pas que vous ne connaissez rien. Vous le savez. Mais aucun homme ne peut venir à moi excepté ce que mon Père a attiré à lui. Et tout ce que le Père m'a donné, ils viendront. Je crois que si j'étais assis là, quelque part là-dehors, ce soir, je voudrais être sûr de prendre ici la moindre pensée aussi fermement que je pourrais. Pourquoi ne pas venir? Je crois que si j'étais assis là, quelque part là-dehors, ce soir, je voudrais être sûr de prendre ici la moindre pensée aussi fermement que je pourrais. Avez-vous fini? Vous êtes sûr que vous n'attristez pas son esprit? Alors, gardons nos têtes inclinées pour être sûr de ne pas avoir assisté son esprit. Vous êtes sûr d'avoir fait exactement ce qu'il vous a dit de faire? Vous êtes positif maintenant? Rappelez-vous que vous ne pourriez même plus avoir une autre chance. L'enregistrement pourrait venir finir ce soir. Ceci pourrait être la fin de tout. Ceci pourrait être la dernière bande pour vous. Êtes-vous sûr d'être prêt maintenant? Si oui, je laisse cela en vos mains dans le nom du Seigneur Jésus. Pendant que le cœur chante doucement, je vais prier pour ceux qui sont ici en bas. Je suis juste une sorte de chrétien bizarre. Je crois que Dieu doit accomplir le salut. Et je crois que Dieu doit apporter la parole. Moi le Seigneur, dit la Bible. Esaïe, moi le Seigneur, je laisse planter, je l'arroserai jour et nuit, de peur que quelqu'un ne la ravisse de ma main. Avant que je demande à quelqu'un de venir devant l'autel, je veux prier moi-même pour eux. Inclinons nos têtes maintenant. Cher Seigneur Jésus, j'ai cité ta parole, dite par ton prophète, et je sais que les mots des prophètes sont véritables. Et tu as dit, moi le Seigneur, je t'ai planté bien certainement. Tu l'as mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Moi le Seigneur, je l'ai planté et je l'arroserai jour et nuit de crainte que quelqu'un ne le ravisse de ma main. Ceux-là probablement, Seigneur, ont entendu beaucoup d'appels à l'autel. Mais tu arroses encore, Seigneur. Ils sont ici ce soir. Puissent-ils juste se détacher ce soir, Père, de toutes les choses du monde, de tous les péchés et difficultés qui sont dans leur cœur. Avec bon sens et avec respect, détache-les vers ta parole. Juste maintenant, dites, Seigneur Jésus, au fond de mon cœur, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose pour moi que je n'avais jamais reçu. Quoi que j'ai essayé, comme l'expression qui a été dite ce soir, de suivre la poule, il y avait quelque chose qui me semblait étrange. Cela ne sonnait tout simplement pas juste. Et ce soir, je sais que je viens maintenant plus près dans les bras de la parole vivante. Je viens ici simplement avec respect dans de bonnes dispositions d'esprit. Je m'installe en bas ici, près de l'autel. Je désire le salut si fortement, Seigneur. Je suis si affamé. Je veux, Seigneur, que tu me tiennes dans tes bras ce soir. Pas au travers d'une émotion, mais à travers l'esprit d'amour. Prends-moi dans tes bras, Seigneur. Dieu, je suis ton enfant. Je sens que je suis cet aigle dont ils ont parlé. Saisis-moi, Seigneur, je saute. Je me suis levé de ma chaise et me suis agenouillé ici. Saisis-moi, Seigneur, je saute. Amène-moi sur tes aigles. Seigneur, loin des choses du monde, laisse-moi voler dedans. Loin de la saleté de ce monde, de la mode, de mes mauvaises habitudes, de toutes les traditions des dénominations. Laisse-moi uniquement venir vers toi, cher Dieu, que ton Saint-Esprit puisse déverser en moi le pardon de tous mes doutes et que je ne sois pas conformé à ce siècle présent, mais conformé à ta parole. Que je puisse ce soir devenir ton enfant fraîchement né et une nouvelle créature, conformée à ta nature. Oh, saisis-moi, porte-moi loin au-delà du
du gloussement de la poule. Porte-moi loin vers le nid de l'aigle où je peux être nourri par la parole de Dieu jusqu'à ce que je puisse voler. Accorde-le Dieu, notre Seigneur. Prends-les. Ils sont à toi. Ceci est ma prière sincère. Priant pour les gens qui sont en train de mourir. Accorde-le, Père. J'offre cette prière en leur faveur pour la gloire de Dieu. Je te le demande.
Non, jamais je... Grâce infinie, Jésus m'a pardonné.